BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Beaucoup de choses à vous raconter ce soir dans l'actualité économique. Atos, bien sûr, parce que ça se confirme, l'État va venir à la rescousse des activités souveraines, comme on dit. On va bien sûr largement vous en parler jusqu'à 20h. Sinon, grosse ambiance tout à l'heure à l'Assemblée nationale, où on en parlait une fois n'est pas coutume de nos déficits budgétaires. Heureusement qu'on n'a pas été dégradé vendredi dernier, parce que Bruno Le Maire s'est quand même fait tacler sérieusement par les oppositions. On va l'écouter dans un instant. Et puis on en parlera dans 10 minutes avec le rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée, le député Jean-René Cazeneuve, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. De tout ça, on reparlera bien sûr avec nos experts qui arrivent dès 18h30, avec eux on reparlera du patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui est en train de se faire auditionner au Sénat. On va voir s'il persiste sur l'idée de déplacer la cotation principale du groupe du côté de New York. Et puis on dira un mot du futur TGV, TGV du futur présenté aujourd'hui à Belfort. La SNCF nous promet qu'il sera plus écologique, plus de monde à bord et donc potentiellement un prix du billet moins élevé. On verra tout ça, bien sûr, pas avant l'an prochain. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble, nous, jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc le dossier Atos, évidemment ce soir à la une. Bonsoir Mathieu Pechberti. Si on se résume, donc Bruno Le Maire qui nous dit hier, Mathieu, que l'État veut acquérir les activités dites stratégiques du groupe. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que ce matin, Atos nous a dit qu'il allait avoir besoin d'encore plus d'argent frais. C'est ça, Mathieu, finalement, hein, l'idée.
Oui, la dégringolade est vraiment de pire en pire, de semaine en semaine. Atos a dévoilé ce matin ses besoins en capitaux dans le cadre de la restructuration qui arrive dans quelques jours. Hein. Vendredi, il y aura une remise des offres importantes. Et alors que Atos avait besoin jusqu'ici, en tout cas ce qu'il disait, de 600 millions d'euros de capital, véritablement.
Pour l'exercice 2024-2025.
Exactement. Ouais. Depuis ce matin, il en demande 1 milliard 100 millions d'euros, donc quasiment un doublement de ses besoins en fonds propres, à quoi il faut ajouter évidemment, vous savez, des conversions de créances en capital pour ceux qui sont déjà en tout cas créanciers d'Atos. Donc ce sont des besoins extrêmement importants et effectivement la décision de l'État qui a été prise hier va permettre de se concentrer pour Atos sur cette restructuration purement financière pour laquelle pour le moment il y a deux repreneurs, oui, en tout cas qui sont lancés.
Ouais, la question c'est de savoir qui va y aller, parce que Bruno Le Maire il parle hier d'acteurs français de la défense et de l'aéronautique, il cite pas de nom. Mais elle n'a pas 50 000 pour autant, Mathieu, dans l'histoire.
Non, alors ça, effectivement, c'est pour la partie uniquement des activités souveraines, de cybersécurité, de supercalculateurs notamment. Bruno Le Maire souhaite réunir autour de l'État des acteurs de l'industrie de défense, hein, comme Dassault Aviation, Thales, oui, peut-être même Airbus. Et ça, l'État se donne jusque début juin pour décider. Et puis, en parallèle, comme je disais, il y a des remises d'offres de reprise, hein, d'Atos qui seront présentés auprès de l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou ce vendredi. Et là, oui, il y a deux repreneurs identifiés, qui sont évidemment le premier actionnaire d'Atos, OnePoint, et son fondateur David Layani. Et de l'autre côté, il y a l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui lui doit déposer, ou en tout cas, doit déposer une offre ce vendredi. Depuis que l'État, évidemment, a repris ses activités souveraines, il n'y a plus d'obstacle, oui, au fait qu'il soit actionnaire d'Atos.
Mais voilà, effectivement, pour les offres qui pourraient être déposées. Merci beaucoup, Mathieu. Mais on reviendra à 18h30 sur le profil de ces deux repreneurs potentiels, David Layani et Daniel Kretinsky. Ont-ils leur chance? C'est une des questions qu'on vous posera tout à l'heure à 18h30 sur BFM Business. 18h02, en attendant, je vous disais, ça a été très chaud à l'Assemblée à l'occasion d'un débat sur l'état de nos finances publiques. On a beau ne pas avoir été dégradé vendredi dernier, les oppositions s'en sont données à cœur joie. Mais avant qu'elles le fassent, Bruno Le Maire, lui, avait tenu à plaider sa cause devant les quelques 50 députés qui étaient présents. Écoutez.
Non, le financement de notre dette n'est pas menacé. Non, la France de 2024 n'est pas la Grèce de 2010. Gardons le sens de la mesure et gardons notre sang-froid. Mais vous me voyez quand même un peu surpris devant cette cohorte de parlementaires qui réclamait toujours plus d'argent naguère et qui exige toujours plus d'économies maintenant. Nous sommes la majorité qui a fait repasser la France sous les 3% de déficit public en 2018. Nous devons être la majorité qui fera repasser la France sous les 3% de déficit public en 2027.
Voilà, Bruno Le Maire tout à l'heure à l'Assemblée, un petit peu chahuté. Vous l'avez entendu derrière lui par certains des députés. On écoutera Boris Vallaud tout à l'heure, notamment pour le Parti Socialiste. Et puis on parle de tout ça dans quelques minutes avec Jean-René Cazeneuve, hein, rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée, qui était donc aux premières loges cet après-midi dans l'hémicycle. 18h04. La SNCF qui innove, je vous le disais, elle a présenté ce matin à Belfort ce qu'on présente comme le TGV du futur, la cinquième génération. Plus écologique, plus spacieux aussi, nous dit la SNCF. Alexandra Paget était sur place, elle nous fait les présentations.
Elle est toute neuve et elle est prête à sortir des ateliers d'Alstom à Belfort. Cette motrice du TGVM, elle va partir en test. Elle ne sera donc pas sur les rails comme prévu pour les JO, mais pas avant le deuxième semestre 2025. Ce TGVM, c'est monsieur 20%, 20% d'économie d'énergie en plus et 20% d'espace supplémentaire. Une vraie prouesse technologique qui explique en partie ce retard de livraison. La SNCF, pour pallier ces retards donc, et surtout pour répondre au désir de plus en plus important des Français pour le train, a décidé de conduire elle-même la rénovation de 100 de ses rames. Coût de l'opération, 6 à 700 millions d'euros.
Alexandra Paget à Belfort pour BFM Business, la SNCF qui a investi 3,5 milliards d'euros pour acquérir 115 rames de ce nouveau TGV qui sera donc pas mis en circulation a priori avant l'année prochaine. Et puis en attendant, ça va être un temps fort du début de la semaine prochaine. C'est confirmé depuis tout à l'heure, le président chinois Xi Jinping arrivera en France dimanche. Visite d'État lundi et mardi. Xi Jinping sait à quel point les Européens sont tiraillés entre leur volonté de préserver le lien avec Pékin et le souci de préserver leurs propres intérêts. Marion Zipfel est la correspondante en Asie de BFM Business.
J'espère que la France poussera l'Union européenne à continuer de mener une politique positive et pragmatique envers la Chine. C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'un entretien téléphonique samedi avec Emmanuel Beaune, le conseiller diplomatique de l'Élysée. Message on ne peut plus clair, adressé à la France à quelques jours de la visite du président chinois Xi Jinping à Paris. Message adressé également quelques jours après le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne. Discours dans lequel il a appelé à la révision de la politique commerciale européenne et pointé du doigt la Chine et les États-Unis qui ne respectent pas la règle du jeu. Des déclarations françaises qui s'inscrivent dans la lignée de la Commission européenne qui se veut plus ferme envers Pékin. Mais face à Bruxelles qui hausse le ton, la Chine peut déjà compter sur les dissonances européennes, à commencer par l'Allemagne qui se montre plus conciliante envers la Chine. Et selon les informations du Wall Street Journal Asia, Berlin pourrait déjà revoir à la baisse une loi de filtrage des investissements étrangers, alors même qu'elle est la cible principale de l'espionnage chinois en Europe, et ce alors même que ces entreprises sont déjà de plus en plus exposées à la concurrence chinoise. Mais Berlin fait le choix de la protection de ses intérêts nationaux, quitte à heurter les intérêts européens.
Marion Zipfel, donc en Asie pour BFM Business. Deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, Arnaud Lagardère, entendu aujourd'hui par une juge d'instruction à Paris. Il était interrogé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte il y a 3 ans par le parquet national financier. Il est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pendant plusieurs années pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles. Et puis la descente aux enfers qui continue pour Getir, la plateforme turque de livraison de courses à domicile. Elle annonce qu'elle va se retirer complètement des États-Unis et des derniers marchés européens où elle était présente. En fait, c'est bien simple, elle va se recentrer sur la seule Turquie. Getir, on s'en souvient, avait racheté l'allemand Gorilla. C'était il y a seulement 2 ans, en 2022. 18h07, on va sur les marchés. Étienne Brack, bonsoir Étienne, depuis Euronext à la Défense.
Bonsoir.
Pour BFM Business, bonsoir Étienne. Petite baisse pour débuter la semaine sur le marché parisien. Hein.
En effet, avant une semaine qui sera lourde, avec notamment 9 sociétés qui vont dévoiler leurs chiffres d'affaires, avec la Fed mercredi soir, avec Apple jeudi soir, et puis enfin pour terminer la semaine, l'emploi américain. Donc juste avant, vous avez une petite séance de consolidation, un CAC 40 qui clôture sur les plus bas niveaux de la séance, légèrement sous les 8100 points, à 8065 points, c'est une baisse de 0,3%. La valeur du jour, c'est bien évidemment Atos, hein, qui gagne 20% ce soir à la clôture, avec donc l'État qui vient au chevet de la société. Bon, on est néanmoins, malgré la hausse du jour, vous avez un titre qui perd toujours plus de 68% depuis le 1er janvier. Et alors, si on va un peu plus loin, on est sur une baisse de 98%, puisque souvenez-vous, à une époque, la valeur était au-delà des 100 euros. Désormais, elle est à 2,27 euros. À noter le pétrole qui recule très légèrement à 87 dollars et l'euro qui retrouve les 1,07. La Bourse de Paris, donc, qui commence la semaine dans le calme avec une petite baisse de 0,3%, légèrement sous les 8100 points à 8065 points avant une semaine chargée.
Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones qui grappille 0,2%, 38 323 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille aussi 0,2%, 15 962, tout ça à la mi-séance. 18h09, le rapporteur général de la Commission des Finances de l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La France a pour l'instant sauvé sa mise en ce qui concerne les agences de notation et son déficit public. Aujourd'hui, il y avait un débat assez intéressant. Jean-René Cazeneuve, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous sortez tout juste de l'Assemblée nationale. Vous êtes rapporteur de la Commission des Finances au sein de l'Assemblée et député Renaissance du Gers. Il y avait donc ce débat à l'occasion de l'orientation des finances publiques. Bruno Le Maire était face aux députés. Vous en sortez. Moi, j'ai vu les images. Ce qui me choque un peu, je croyais que c'était quand même le débat qui est préoccupé toute la classe politique. Il y avait quoi, à peine une cinquantaine de députés dans l'hémicycle ?
Oui, je le regrette aussi, parce que c'est un sujet fondamental, hein, le budget, de manière générale.
En plus, ça fait 15 jours que vous ne siégez pas, donc...
Pas d'excuses.
Donc, pas d'excuses
oui, non, c'est un lundi, donc il y a un tout petit peu moins de monde.
Ils ont fait le pont, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, mais ils arrivent plutôt le lundi soir pour les séances du mardi, mais non, c'est pas bien, oui, je pense qu'il faut, ça mérite plus de monde.
Oui, parce qu'en plus, quand même, c'est un débat important, non ? C'est un débat très important.
C'est un débat extrêmement important, évidemment, puisque c'est nos politiques publiques, c'est la crédibilité de notre pays, c'est la trajectoire de maîtrise des finances publiques, c'est le financement de nos investissements. Oui, donc c'est très important. Évidemment, ça engage notre pays. Je peux regretter. Bon, le débat a quand même eu lieu. Hein, donc,
oui. Et puis il va se poursuivre parce qu'on en dira un mot dans un instant.
Tous les partis étaient représentés.
On en dira un mot dans un instant. Il y a le Front National, enfin le Rassemblement National, qui a demandé une loi de finances rectificative dans les 30 jours, sinon ils menacent de déposer une motion de censure. Juste avant, sur la notation, sur les agences de notation, avec le maintien de la note de la part de Moody's, et est-ce que vous, en attendant celle de Standard & Poor's, qui sera le 30 à mai, donc vous pouvez souffler encore un petit peu, est-ce que vous comprenez ce maintien de la note française, ou du moins comment vous l'expliquez ?
Alors, je comprends. On était tous agréablement surpris quand même.
Ouais, vous avez été très surpris, vous pouvez le dire.
J'étais surpris, donc je pense qu'il y avait une chance sur deux. Vous voyez, moi, j'avais préparé deux communiqués de presse.
Ah oui, d'accord, c'est pour dire. Bon, oui.
Il faut dire que je ne savais pas. Ouais. Et les journalistes avec qui j'ai discuté, on avait préparé qu'un. Donc, ouais. Et ce qui était assez drôle pendant le débat, c'est que les oppositions étaient déçues. Oui, elles étaient déçues que la note soit maintenue. Elles auraient préféré que la note soit dégradée.
Dans votre communiqué où vous disiez « ça y est, la France est dégradée », il y avait écrit quoi, Jean-René Cazeneuve ?
Non, mais...
Ah bah si, dites-le maintenant, vous nous avez étendu une perche, la saisie.
Si vous voulez, bien sûr, mais il y avait... on ne vit pas à l'aune des notations, et c'est pas ça qui fait la politique de notre pays. Mais je pense que ça veut dire ce maintien, et aussi... pas de triomphalisme de notre part, parce que de toute façon, ça revient tous les six mois,
et
la situation et le contexte économique est quand même extrêmement, extrêmement difficile. De toute façon, dans les deux communiqués de presse, je disais que c'était une raison sérieux budgétaire, et ça ne pouvait que justifier. Donc, le fait que si on n'avait pas été maintenu, ben, il aurait fallu redoubler de sérieux dans la maîtrise de nos dépenses publiques. Le fait qu'on soit, ça veut dire qu'il faut respecter la trajectoire sur laquelle on s'est engagé, qui n'est pas facile, qui est très volontariste et qui demande aussi de faire des économies sur les dépenses publiques. Donc, dans les deux cas, il faut faire des économies sur les dépenses publiques.
Oui, d'accord. Donc, de toute manière, vous avez... Oui, ben, Bruno Le Maire, que je recevais mercredi dernier, à propos de son plan de simplification, qui pourrait, à terme, faire gagner 3-4% de croissance à la France, il disait « je suis déterminé ». Il ne disait pas « je suis confiant », hein. Il disait « je suis déterminé dans cette trajectoire ». vous gardez vos deux communiqués pour Standard & Poor's pour le 30 mai prochain ?
Non, nous, on déroule. C'est-à-dire qu'on a essayé avec ce plan de ce qu'on appelle le plan de stabilité qui est envoyé à l'Europe. C'est un équilibre, si vous voulez, c'est un chemin de crête entre à la fois maîtriser nos dépenses publiques pour arriver à 3% de déficit en 2027, ce qui est absolument nécessaire, d'une part, et d'autre part, financer nos politiques publiques. On ne peut pas freiner comme ça aussi brutalement.
Le rapporteur général de la Commission des finances, Jean-René Cazeneuve, grand spécialiste des collectivités locales, financement des collectivités locales. Vous y croyez, vous, à ce 3%? Non, mais je suis d'accord que c'est un objectif, mais enfin, c'est pas tenable.
C'est difficile.
Oui, c'est difficile.
C'est difficile, et il faut le faire. On a trop vécu, si vous voulez, depuis maintenant 40-50 ans, dans une sorte de déficit endémique. On a maintenu, parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, donc on a pu imaginer qu'on pouvait continuer comme ça à s'endetter sans que ça pèse sur nos finances publiques. Ça n'est plus le cas. Les intérêts de la dette, c'est 50 milliards cette année, à peu près, et ce sera 70 milliards en 2027. Donc, le choix est simple. Est-ce qu'on utilise ces 50 milliards ?
Les taux vont baisser, donc bon. Il y a des élections qui arrivent.
Oui. Même s'ils baissent, raisonnablement, on sera à 70 milliards. Donc, est-ce qu'on veut utiliser ces 50 milliards d'intérêts pour financer la transition écologique, pour financer, ou est-ce qu'on les donne à nos prêteurs ?
Ici, défilent tous les économistes, sans faire de la politique politicienne. C'est vrai que les 3%, c'est un objectif, et puis c'est important, il faut être déterminé, comme dit encore une fois le ministre de l'Économie. Enfin, il y a un moment où ça frôle la sincérité.
Non, c'est difficile. Et il faut à la fois. Écoutez, on a baissé de 20 milliards. Les
collectivités locales, on leur dit, on fait quoi ? On leur coupe absolument tous les robinets ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais,
non, on dit aux collectivités territoriales, il faut que vous ayez une augmentation de vos dépenses qui soit de 0,5 points inférieure à l'augmentation de l'inflation. Donc on leur demande juste de modérer l'augmentation de leurs dépenses.
Déjà, les gens hurlent en disant c'est 10, 20 milliards, 50 milliards, on n'arrivera jamais à faire toutes ces économies.
Écoutez, il faut la dépense publique, elle a augmenté de 300 milliards depuis 2017. Ouais. 300 milliards. Bon, est-ce que pour autant tout le monde est satisfait de l'ensemble de nos services publics ? Ça n'est pas le cas. Donc ça n'est pas la bonne solution que d'augmenter indéfiniment la dépense publique. Donc il faut mieux dépenser notre argent. Et donc là, ce dont on parle pour les dépenses publiques sur les 5 prochaines années, jusqu'en 2027, 4 prochaines années, c'est simplement d'avoir une augmentation. On va toujours avoir une dépense supérieure à l'inflation. Ouais. Supérieure à l'inflation. Donc, ce n'est pas non plus l'austérité. Je suis un peu... Il y a deux postures caricaturales, si vous voulez, dans l'hémicycle. Il y a ceux qui vous disent c'est l'austérité. Bon, ils radotent, ils le disent depuis 2017.
Et ceux qui disent il n'y a aucun problème, on arrivera à faire les 3% en 2027. Les deux positions.
Personne. Il y a ceux qui disent que à droite, qui disent que c'est la gabegie, qu'on dépense sans compter, qu'il faut absolument arrêter. Et pour autant, ils ne font budget après budget que des propositions qui augmentent la dépense publique. Donc il n'y a aucune cohérence chez les LR. Donc on essaie de trouver ce chemin de crête entre les deux. Donc c'est difficile ce 3%. Ouais. Il n'est pas fait. Ça demandera un effort de tout le monde, et c'est pour ça que Bruno Le Maire et moi,
René Cazeneuve, ça fait longtemps que je vous ai pas reçu, mais parce qu'on cherche tous, est-ce que vous avez, je sais pas, une, deux mesures concrètes pour faire des économies? Moi je cherche, j'en vois pas.
Mais écoutez,
donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous
le plein emploi.
Mais c'est pas pour tout de suite ça.
Non, mais enfin, jusqu'à présent, on a quand même plutôt réussi, on a gagné 2 points, on a fait baisser 2 points, ça stagne en raison de la crise économique à laquelle on n'échappe pas, nous ne sommes pas une île, comme vous le savez. Donc, on l'accompagne avec la réforme chômage, l'allocation chômage. Ça, c'est une mesure qui va amener plus de personnes sur le travail. On l'accompagne aussi d'une réforme du RSA pour accompagner ces gens qui sont structurellement au RSA et qui y restent. Ça n'est pas possible d'accepter de se La société ne peut pas accepter ça, donc il faut les accompagner vers l'emploi.
Oui, mais vous voyez quand même
ce sont des mesures qui nous permettent de trouver des financements et des recettes supplémentaires.
Oui, c'est sûr, mais vous voyez, la difficulté, c'est que c'est sur les citoyens, c'est sur les salariés qui nous écoutent, mais c'est en aucun cas sur l'État. Sur l'espèce de mastodonte, on nous dit qu'on est en train de crouler, c'est même pas nous qui le disons, c'est les ministres, on est en train de crouler sous les normes, d'où un plan de simplification, et puis en même temps, il n'y a aucune réforme de l'État.
Bah, écoutez, on a annoncé 10 milliards d'économies exclusivement sur l'État.
Ouais.
Bon, Voilà, c'est quand même un bel effort. L'État montre l'exemple et l'État doit faire. Et moi, en tant que parlementaire, en tant que rapporteur général du budget, je veillerai à ce que l'État fasse bien ces 10 milliards d'économies cette année, comme il l'a annoncé. Et vous avez raison, il doit les faire.
On voit bien que c'est un débat, en tous les cas, qui est très anxiogène, hein, d'où les bisbilles entre le président de la République et son ministre de l'économie et des finances. Mais on y reviendra sur l'aspect politique. Mais c'est sûr que Bruno Le Maire, quelque part, il avait raison en disant, regardez, les déficits, on n'avait pas du tout anticipé tel déficit. Donc, il faudrait un projet de loi de finances rectificative quand on est dans le... C'est-à-dire quand on fait les choses normalement, puisque vous êtes rapporteur général à la Commission des finances, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors après, il y a un contexte politique qui n'est pas l'idéal, on vous l'accorde. Qu'est-ce que, d'abord, vous étiez favorable ou pas ?
Non, je pense qu'on a pris la bonne discussion était sur la table.
Il y avait reçu la lettre là de Bruno Le Maire où il l'a envoyée ou pas? Non,
je parle
trop macroniste.
Je parle toutes les semaines à Bruno Le Maire directement. Et il m'envoie pas de courrier. Et on se parle en grande confiance. Et c'est un grand ministre de l'économie et des finances. Si vous voulez, on ne peut pas. On a un déficit cette année qui sera de 5,1%, qui était 5,5 l'année dernière, qui passe à 5,1. Donc c'est déjà un coup de frein très important. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin en milieu d'année. Et on ne peut pas, au mois d'avril, décider qu'on va diminuer nos recettes, nos dépenses de 20, 30, 40 milliards. Ça n'est juste pas possible. PLFR ou pas PLFR. Donc, on ne peut pas non plus trop freiner nos dépenses publiques. D'accord. Parce qu'il y a un enjeu de croissance. Bon, tous les économistes s'accordent pour dire qu'il y aura un rebond de la croissance, fin 2024, en tout cas 2025.
Avec la baisse des taux.
C'est ça, avec la baisse des taux, aidée par la baisse de l'inflation. Donc, on ne peut pas non plus trop freiner. Donc, on freine de 20 milliards, ce qui est déjà un effort colossal, reconnu par les agences de notation, au passage, et ça nous permet de tenir notre trajectoire. Donc pourquoi faire un PLFR ?
Oui, d'accord. Donc de toute manière, vous dites 20 milliards, on ne peut pas aller plus loin, on ne pourrait pas aller plus loin. Mais il y a le groupe Rassemblement National qui a demandé tout à l'heure un projet de loi de finances rectificative dans les 30 jours, faute de quoi il déposerait une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Il n'y a aucune chance, de toute manière.
Les groupes politiques là, si c'était, la situation n'était pas si grave, ça m'amuserait, si vous voulez. C'est à qui ils se battent pour savoir qui va déposer le premier la motion de censure.
Qui aura la peau du gouvernement, quoi.
Exactement. Franchement, dans quel objectif? Donc LFI a dit qu'il le déposerait, le Rassemblement National a dit qu'il le déposerait, les LR ont dit qu'il le déposerait. Ça fait 3 mois qu'ils disent. Oui. À quoi ça sert? J'ai envie de leur dire. Mais c'est quoi l'objectif de déposer une motion de censure? Mais vous êtes prêt à une dissolution? Ça va régler le problème de la France? Vous êtes prêt à une coalition avec le gouvernement? Ça va régler... Et bien sûr que non. Donc, vous voyez, ces postures politiques, alors que la gravité de la situation devrait nous réunir, franchement, c'est à pleurer.
Mais en même temps, Bruno Le Maire, lui, il a dit qu'il tendait la main, justement, aux oppositions, alors sans doute un peu plus les LR que le Rassemblement National, pour dire que, essayer de tomber d'accord sur ce qu'il faut pour réduire le déficit public.
Et je le souhaite. Il a tendu la main, le ministre Cazeneuve a également tendu la main, j'ai tendu la main, il faut qu'on travaille ensemble. Et les LR, j'en appelle un minimum de cohérence. Ils peuvent pas nous reprocher de pas faire suffisamment d'économies. Et quand on leur propose
un plan... Non, ils trouvent que vous avez beaucoup trop dépensé.
Oui.
Bon, c'est bien, pas une erreur. Mais en tous les cas, c'est...
Non, mais la dernière mesure du président Ciotti, c'est la baisse des cotisations salariales jusqu'à 3 SMIC. C'est 50 milliards de dépenses supplémentaires par an. Bon, ouais, donc la cohérence des LR, je la cherche toujours. Mais on les appelle à venir travailler avec nous en toute cohérence pour respecter cette trajectoire.
Est-ce qu'une des fautes originelles quand même d'Emmanuel Macron, qui est quand même, c'est vrai que ça on dit toujours un peu en souriant, une sortie d'Emmanuel Macron, ça coûte 1 milliard au budget de l'État. Mais là, ça a coûté 20 milliards, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Vous êtes, je le disais, un spécialiste, Jean-René Cazeneuve, du financement des collectivités locales, et elles disent toutes, ça coupait le lien, si vous voulez, avec les citoyens, avec les entreprises. Et puis en fait, comme c'est rattrapé par la hausse de la taxe foncière, finalement, on ne voit pas tellement la couleur.
Non, alors vous savez, là aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des uns et des autres. Ouais. Effectivement, beaucoup disent...
À quoi ça sert ?
Des élus disent, ça a coupé le lien, c'est dommage, on perd une recette dynamique, etc. Bon, Moi, je n'ai pas rencontré de Français. Hein, je fais les marchés, je sors de 15 jours en circonscription dans le Gers. Je n'ai pas rencontré un seul Gersois qui m'ait dit « Oh, c'est dommage, j'aimerais bien la payer, la taxe d'habitation. »
Personne. Non, enfin bon.
Et dans le budget, si vous permettez, Edwige Chevrillon, dans le budget, vous avez... il y a eu 10 000 amendements dans le budget. 10 000 amendements dans le budget. Il n'y en a pas eu un seul pour rétablir la taxe d'habitation. Ouais. Il n'y en a pas un. Donc, ils vous disent qu'il faudrait... En fait, la réalité, c'est que les Français payent beaucoup d'impôts. La classe moyenne qui paye la taxe d'habitation paye beaucoup d'impôts. Et nous assumons d'avoir baissé les impôts des Français.
Eh bien, justement, est-ce que, quand même, quelque part, est-ce que la hausse des impôts, est-ce qu'elle n'est pas inévitable? Est-ce que vous croyez aux 2 milliards de baisse d'impôts sur les classes moyennes? Gabriel Attal, qui était l'invité de nos confrères de BFM TV, il a dit oui, mais en même temps, le gouverneur de la Banque de France a dit, attendez, il n'est pas question de faire des baisses d'impôts alors qu'elle ne s'est pas financée. Vous, vous êtes où là-dedans?
Le Premier ministre a dit que ces 2 milliards seraient financés.
Oui, mais il faut d'abord qu'on trouve des baisses d'impôts.
Seraient financés.
Enfin, des baisses des économies.
Nous ne voulons pas augmenter les impôts. Les raisons sont très simples. Nous sommes le pays au monde où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés.
Est-ce que vous êtes
on a
pour les
essayé
baisses d'impôts
la formule des
sur les classes moyennes, du pays. Les 2 milliards là, les 2
oui,
milliards
on va
promis,
le faire.
Est-ce qu'il faut les donner?
Bien sûr, on va le faire et on le financera l'année prochaine. Ça est un engagement du Premier ministre Gabriel Attal et évidemment, il sera tenu, il faudra le financer donc par des économies supplémentaires. Nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Que ce soit l'IS, que ce soit l'impôt sur le revenu, c'est aussi clair que ça. Et je le dis et je le redis. Hein, donc, nous devons faire des économies sur nos dépenses publiques. Il faut aller chercher peut-être des recettes supplémentaires sur un certain nombre de niches fiscales qui ne sont pas optimisées. Ça, je ne suis pas contre,
exemple,
il faut le faire.
Comme toujours, il y a plein d'idées, mais sur quoi vous, qu'est-ce que vous préconisez?
Peut-être qu'il faut se poser la question de l'apprentissage qui, aujourd'hui, coûte un peu cher. Bon, donc ça, on peut peut-être faire... c'est un véritable succès, mais pour autant, on peut peut-être réduire un tout petit peu
oui, mais regardez, vous lancez quelque chose.
Exemple.
Il y avait le leasing social. Pour la commencer, c'est un grand succès. Ça coûte trop cher, on arrête. Donc, baisse absolument dingue des voitures électriques, des achats de voitures électriques. Vous prenez la...
c'est un succès, prenons-le comme ça.
Bah oui, mais ma prime rénov, oui. La même chose. Maintenant, c'est un échec total. Vous voyez
la non, c'est pas un échec total.
Le chiffre, là, c'est absolument incroyable. Le premier trimestre, il n'y a rien.
Non, mais d'un point de vue opérationnel, il faut regarder. Enfin, moi, je vois, si vous voulez, les gens et les autres m'expliquent que c'est difficile d'accéder à ma prime rénov, que c'est compliqué. La réalité, c'est que ça a coûté 2 milliards l'État l'année dernière. Il y a bien des gens qui ont trouvé le moyen d'avoir...
Vous avez modifié les conditions.
Oui, mais...
Parce que justement, ça coûtait trop cher. C'est un stop and go permanent.
Non, c'est la montée en puissance de nos dépenses en matière de transition écologique, c'est pas un stop and go, ça augmente chaque année. Notre soutien à la transition écologique augmente chaque année. Je ne dis pas que le processus d'accès à la prime rénov est idéal. C'est vrai qu'longtemps on a dit que ça ne finançait que ce qu'on appelle les monogènes. Je change ma pompe à chaleur, ma chaudière, etc. C'était pas suffisant, mes fenêtres, ça c'était pas suffisant. On voulait aller vers les rénovations totale, complète. Mais c'est ce qu'on a voulu faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut trouver des artisans capables de le faire, des entreprises capables de le faire.
Il faut mieux regarder ça avant, non? En amont?
Mais on va régler le problème, ne vous inquiétez pas.
Oui, ouais. C'est pas un peu la cacophonie quand même, un petit peu, là? Il y a un manque de suivi du côté de Bercy?
Non. Non.
Comme sur les dérives budgétaires dont on a parlé, non?
Non, je crois pas. Enfin, il y a une vraie cohérence dans ce que nous faisons depuis le début.
Est-ce que justement cette espèce de séquence un peu bizarre auquel nous avons assisté entre le président de la République et Bruno Le Maire, la sortie de son livre qui n'a pas été très bien compris, tout le monde lui a rappelé qu'il était ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans. Est-ce que du coup vous avez l'impression que ce couple est un peu au bord du divorce ou pas?
C'est le couple le plus vieux.
Justement.
Donc c'est le ministre, il est là depuis le début. Ouais. Il a soutenu le président de la République. Mmh. C'est un des premiers à avoir soutenu le président de la République. Il est extrêmement cohérent. Donc moi je veux pas rentrer dans ces histoires parce que j'en sais rien, si vous voulez. Bon.
D'accord. Vous dites j'en sais rien.
Ce que je constate. Mmh. Pour travailler beaucoup avec Bruno Le Maire et beaucoup avec Bercy, c'est qu'il est extrêmement constant, c'est-à-dire son engagement pour la France, pour réduire le déficit et maîtriser notre dépense, il est absolument constant et il est extrêmement loyal avec le président de la République.
Merci beaucoup Jean-René Cazeneuve, donc rapporteur de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député du GERS, député Renaissance, qui essaye lui aussi de tenir la barre au milieu. Et vous avez dit tout à l'heure, la crête est quand même assez étroite. Merci beaucoup
merci d'avoir beaucoup.
Été avec nous. Tout de suite, les infos, toutes les coups, Guillaume Paul.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h33, c'est reparti jusqu'à 20h. Good evening business en direct sur BFM Business. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov qui nous reçoit, qui nous rejoit bien sûr comme tous les soirs, qui nous reçoit
un petit aussi, un peu.
On est à la maison ici. Mathieu Pechberti qui est avec nous. Rebonsoir Mathieu. Emmanuel Le Chypre.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel. Et puis Edwige Chevrillon qui est avec nous de nouveau. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Alors on en a parlé longuement avec Jean-René Cazeneuve. Il n'y avait pas foule à l'Assemblée au passage. Hein,
non, c'était vide.
Pas une cinquantaine.
Les images étaient choquantes.
Tous les partis étaient représentés. C'est ce qui
toujours ça.
Il a dit, mais il a dit que c'était effectivement pas très sérieux.
Il a expliqué que c'était un peu monnaie courante un lundi.
Ça sent le pont du premier, mais quand même.
Surtout c'est que pendant 15 jours, là, ils ont pas siégé. Donc, si vous voulez, c'était comme ça, un petit peu bizarre. Ouais. Oui, c'est le pont du premier mai. Bon.
Alors, c'était tout à l'heure, et on a parlé évidemment de l'état de nos dépenses publiques pendant quelques heures à l'Assemblée. Heureusement qu'on n'a pas été dégradé. Qu'est-ce que ça aurait été ? Toujours est-il que Bruno Le Maire s'est quand même fait un petit peu chahuter aujourd'hui. Hein.
Oui, absolument. Alors, évidemment, il s'attendait à être bousculé. Hein. Il a pris la parole en premier pour plaider en quelque sorte sa cause. On l'écoute tout de suite.
Non.
Alors, Bruno Le Maire, est-ce qu'on peut...
Non, le financement de notre dette n'est pas menacé. Non, la France de 2024 n'est pas la Grèce de 2010. Gardons le sens de la mesure et gardons notre sang-froid. Mais vous me voyez quand même un peu surpris devant cette cohorte de parlementaires qui réclamait toujours plus d'argent naguère et qui exige toujours plus d'économies maintenant. Nous sommes la majorité qui a fait repasser la France sous les 3% de déficit public en 2018. Nous devons être la majorité qui fera repasser la France sous les 3% de déficit public en 2027.
Bon, en tout cas, force est de constater, malgré ce qu'on en pense ici, que c'est un discours qui a réussi à convaincre les agences de notation.
Oui, c'est sûr. Ce que j'aimais là, donc avec le rapporteur général de la commission des finances qui était ce studio, c'est qu'il me disait, moi j'avais préparé deux communiqués. Donc au moins il est franc. Hein. Il dit oui. C'était un peu une surprise.
Oui, c'est vrai.
Donc je lui dis, gardez peut-être vos deux communiqués, ça peut servir pour Standard & Poor's à la fin du mois.
Oui,
ça c'est un autre débat. Mais peut-être que ce qui a été annoncé, le plan de simplification que nous expliquait Bruno Le Maire ici, peut-être que ça a joué. Et puis surtout, c'est que quand même la dette de la France. Tout le monde en veut encore. Hein, je veux dire, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est ce que vient de dire Bruno Le Maire. Il n'y a pas d'inquiétude sur la dette de la France.
Enfin, ce qui a dû convaincre quand même Guillaume, c'est qu'au-delà du plan de simplification, c'est à la fois les fameux 10 milliards et puis la réforme du RSA et l'assurance chômage.
Oui, bien sûr, ça a joué. Tout a été fait au dernier moment et d'une manière un peu bousculée. On a bien vu ça. La séquence a été un peu anxiogène, hein, pour reprendre l'expression du président. Mais en même temps, ça a marché.
Ce qu'il dit, c'est qu'on va faire 20 milliards d'euros d'économie. On ne peut pas, en milieu d'année comme ça, décréter qu'on fait 20, 30, 40, 50 milliards d'euros d'économie. On ne peut pas. Il y a une question de croissance. Il n'a pas complètement tort.
Alors ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant qu'a dit Jean-René Cazeneuve, où on dit, il faut faire une loi de finances rectificative. En tout cas, c'est ce qu'a demandé le Rassemblement national. Il dit, parce que finalement, on ne peut pas aller plus loin. Comme vous le dites, vous avez raison, c'est au-delà de 20 milliards, c'est vraiment là, on casse la croissance qui va peut-être repartir. Donc, de toute manière, ça aurait servi à rien, cette loi de finances rectificative.
Oui, après, en fait, c'est un sujet de dialogue démocratique, parce qu'à l'heure de 49.3 historique en termes de volume et puis de tout continuer à imposer par décret, ça pose quand même problème, Emmanuel.
Oui, sauf que je vois pas où vous allez aller chercher un consensus dans l'Assemblée actuelle sur des éventuelles réductions de dépenses.
C'est ça le problème. Donc ça veut dire que pas de dialogue possible.
Non, je pense pas qu'il y ait de dialogue possible. Mais d'ailleurs, c'est assez effectivement, c'est assez étonnant le résultat de ce qu'ont fait les agences de notation. C'est un peu comme quand vous avez des enfants, vous savez, puis vous leur dites à trois, si t'as pas rangé ta chambre, tu vas au coin, puis vous comptez, vous faites deux et demi. Trois, et puis voilà. En fait, je pense que en plus le commentaire des agences est très clair. Contrairement à ce que vous dites, je pense qu'elles ne font aucune confiance à la France pour redresser sa trajectoire de finances publiques.
Non, mais sur la la dette, moi je dis qu'elles font confiance.
Parce qu'elles l'ont dit, elles le disent. Le plan qui a été présenté par le gouvernement, on n'y croit pas.
Alors elles ont émis des doutes quant au retour sous les 3%. Voilà. Oui, mais enfin, toujours est-il qu'elles n'ont pas dégradé la note.
Oui, elles n'ont pas dégradé la note parce qu'encore une fois, il faut bien rappeler que le seul objectif des agences de notation, c'est d'évaluer est-ce qu'un pays est toujours capable ou pas de rembourser sa dette. Et aujourd'hui, ils considèrent que compte tenu finalement de la solidité de notre système bancaire, compte tenu du niveau d'épargne des Français, compte tenu du niveau de patrimoine de l'État, etc., et surtout compte tenu de la capacité, et c'est ça qui devrait inquiéter les Français, compte tenu de la capacité de notre ministère de l'économie à lever des impôts et à taxer les Français, ils considèrent que pour le moment, il n'y a pas de doute sur la capacité de la France à rembourser sa dette. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent que la trajectoire de la France va s'améliorer. C'est-à-dire que quand vous mettez bout à bout toutes les tendances, un déficit structurel qui reste absolument considérable, 3% du PIB, des potentiels de dépenses qui sont de réduction des dépenses qui sont quand même très limités. Donc voilà, c'est
donc
juste
une dette
que, c'est
soutenable
juste que c'est sans doute,
malgré un retour aux 3% incertain.
Une dette soutenable malgré effectivement une trajectoire des finances publiques qui ne s'annonce pas favorable.
D'accord avec ça, Edwige, est-ce que de ce point de vue-là, si on s'en tient à la définition du rôle des agences, vous dites bon bah finalement que on a été que les notes étaient maintenues n'est pas une surprise finalement.
Enfin oui, enfin je veux dire c'était très juste. Hein, j'ai envie de dire.
C'était titre double, pour reprendre les termes de votre
invité. Vous pouvez au moins dire j'abaisse la perspective à horizon 6 mois, peut-être que c'était un petit signal adressé.
Oui, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a quand même un point, alors, mais peut-être que je suis optimiste, peut-être qu'Emmanuel ne sera pas du tout d'accord. C'est-à-dire que cette perspective de baisse des taux, en fait, fait que tout le monde se dit que là, ça y est, on est dans le dur, on est un peu dans l'œil du cyclone, mais d'ici le mois de juin, ça va aller beaucoup mieux, même la croissance ira mieux, ça va repartir. Ils sont tous un peu dans l'attente de cette baisse des taux et donc ils semblent y croire un peu comme les marchés du reste.
Mais alors c'est vrai qu'on s'attend à un rebond de croissance fin 2024.
Oui, même un peu
déjà
avant.
Les chiffres sont pas mal. Déjà aujourd'hui, on a des prémices un peu partout que l'activité est quand même un peu mieux orientée. Si vous prenez la France, très clairement, le creux de l'activité, on voit qu'il a été atteint en fin d'année 2023. Si vous regardez toutes les enquêtes de conjoncture de l'INSEE, vous voyez que ça pointe un peu le bout de son nez. Ça redémarre. En Allemagne, on a quelques bonnes nouvelles. La semaine dernière, on a eu la confiance des ménages, les intentions de consommation qui sont plutôt favorables. La Chine, ça repart un peu. Les États-Unis, c'est toujours solide. Et donc, on a sans doute atteint le creux. Et il faut voir, encore une fois, il y a une espèce d'illusion avec les chiffres en moyenne annuelle. C'est qu'en fait, en 2023, on a fait à peu près 1% de croissance, mais avec 4 trimestres quasiment nuls. Mais parce qu'il y avait de l'élan qui venait de 2022. Là, il n'y a pas d'élan transmis à 2024 par 2023. Mais on pourrait avoir des trimestres qui sont
Oui, et puis on a aussi un taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré, en tout cas.
Oui, absolument. Bon,
donc ça peut jouer sur les comptes publics.
Oui, mais vous voyez bien
si je vous entends bien, Standard & Poor's ne bougera pas une oreille le mois prochain. Ça vous
C'est pas sûr.
Non,
c'est pas sûr. On peut toujours espérer qu'il y a quelques pouillèmes de points de croissance qui viendront peut-être aller faire un peu plus de recettes fiscales à la fin. Mais vous voyez bien que tout ça, que ce soit ce qui est décidé du côté des économies ou ce qui est rêvé et anticipé du côté des recettes, n'est absolument pas à la hauteur. On est en centaines de millions, voire en milliards, alors qu'encore une fois, les enjeux pour le redressement de nos finances publiques, on parle de dizaines de milliards.
Mathieu Pechberti.
En général, les S&P est plutôt modéré par rapport aux deux autres. Donc, si les deux autres n'ont pas bougé, moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'S&P, effectivement, ne bougera pas non plus. Et puis, quant à la stratégie, effectivement, c'est ce que dit Edwige, que ce soit les États ou les entreprises, les grands malades surendettés jouent la montre et se disent qu'il faut attendre encore un peu, 2025, et la perspective de baisse des taux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs surendettés, comme Patrick Drahi, d'ailleurs qui parient cela en ce moment. Ça me paraît un peu risqué sur le timing, on n'est pas à un mois près, mais jouer ça à six mois près, c'est un petit peu dangereux, même si évidemment beaucoup d'économistes, le gouverneur de la Banque de France, poussent à une baisse des taux qui commencerait à la fin de l'année. Je pense que c'est un
peu Standard & Poor's qui parle
encore une fois, ce qui nous guette,
c'est pas
une crise financière majeure à la Grèce. Il faut rappeler que la Grèce, quand même, rappelez-vous, la première dégradation, c'est 2004.
Même de comparer, je pense.
C'est 2004. La crise grecque, c'est 2012. Ouais. Et la crise n'éclate que parce qu'on se rend compte que finalement les chiffres sont truqués, bidons, et que le déficit public grec.
Mais le sujet, c'est le volume d'intérêt de la dette, 50 milliards d'euros.
Non, mais les investisseurs sont toujours là pour prêter. Après, ça dépend évidemment du prix et donc des taux. Mais
il y a un point clé qui, pour l'instant, jouait. Et là, c'est pour ça que ce petit crise de couple entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron n'était pas très bon. Parce que la stabilité politique de la France, c'est un enjeu très important pour les agences de notation. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de soucis, malgré la majorité relative.
Non, donc ce qui nous guette, c'est plutôt un scénario d'asphyxie à l'italienne qu'un scénario de crise à la grecque. Et puis l'autre point, et c'est ce que dit Mathieu qui joue en faveur de la France, c'est qu'aujourd'hui vous avez un surplus d'épargne mondiale qui ne demande qu'à s'investir. Quand vous regardez comment ça se passe sur les marchés boursiers aujourd'hui, vous voyez que ça fonctionne un peu en vase clos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absorption de l'épargne mondiale sur les marchés boursiers. Et donc, aujourd'hui, finalement, face à d'autres pays européens qui sont assez frugaux, qui font que les émissions de dette européenne au total ne sont pas considérables, vous avez un équilibre offre-demande de titres de dette publique. Qui est plutôt favorable finalement.
Et on achète de la dette française.
Voilà. Mais en tout cas, sur la stabilité politique, attention à la motion de censure.
Fondamentalement, oui. Fondamentalement, elle ne sert plus à grand-chose.
Bon, en tout cas, il n'y a pas que le gouvernement qui est endetté. On va parler d'Atos, évidemment. Comme on s'y attendait, Bruno Le Maire l'a annoncé hier. L'État a donc bien manifesté son intérêt en vue de reprendre l'ensemble des activités dites souveraines du groupe. Il a clairement évoqué tout ce qui touche à la cybersécurité. Donc, c'est les spéculateurs, les supercalculateurs ou encore le nucléaire.
Et ça, c'est d'autant plus une bonne nouvelle, Mathieu, que Atos nous a dit ce matin qu'il allait avoir besoin, là, sur les prochains mois, de plus d'argent frais que prévu.
Quasiment deux fois plus,
Oui, alors on va se retrouver avec deux sociétés, maintenant, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, un Atos public, qui va recouvrir effectivement les activités dites de souveraineté, l'activité sensible, proche de l'armée, avec certaines qui ont même l'habilitation secret défense. Donc, on parle de simulation de missiles, d'écoute de la DGSE, de communication entre les flottes de rafales de l'armée de l'air. Donc, voilà, on est sur des sujets très sérieux. Tout ça va partir dans le giron de l'État, qui va dépenser entre 700 millions et 1 milliard d'euros pour ces activités. On verra comment va se passer la négociation purement financière avec Atos. Et puis l'État va essayer, pour dépenser un peu moins, enfin le moins possible, on parle quand même de 700 millions à 1 milliard d'euros, je rappelle, faire venir auprès de lui des groupes dont il est proche, des groupes évidemment quasi publics ou parapublics, Dassault Aviation, Thales, Airbus, pour
fâcher un peu au bassinet,
faire un peu la quête.
Airbus a quand même claqué la porte.
Faire un peu la quête pour que ces groupes-là diminuent la facture de l'État, et donc faire un grand machin public-privé. Qui gérera ces activités. L'idée étant de les extraire d'Atos parce que le reste est en train de s'écrouler.
Qui va y aller ? Qui va y aller ?
Là, Mathieu a donné les noms. L'idée quand même, c'est ça peut plus séduire. Il n'y a pas l'aspect cybersécurité qui déposait tant, notamment à Thalès. Là, il y a un côté très défense militaire. Donc là, ça peut. On peut inciter, par exemple, je ne sais pas, Éric Trappier, on le voit difficilement en train de dire non.
Tout le monde traîne des pieds, fondamentalement. On sent bien que.
Oui, mais je pense que.
Patron de Thalès, vous disiez il n'y a pas longtemps, on ira.
Il avait été très clair. Il m'a dit une de question. Mais c'était. Sur Evidence, c'était sur la cybersécurité. Oui. Donc, ce n'était pas sur l'aspect militaire. Après, ils sont tous dans la défense, donc ils peuvent dire, il y a un aspect
défense. Airbus ayant claqué la porte de la manière dont il a claqué la porte...
Mais là, on n'est plus sur le même périmètre. Effectivement, il y a un enjeu de souveraineté et de défense. Donc là,
l'idée, c'est que ces industriels investissent à côté de l'État. Voilà. Ouais. L'État sera actionnaire majoritaire, ces activités vont être nationalisées, et il y aura à côté quelques industriels.
Mais alors, la question que je me pose, Mathieu, puisque vous suivez le dossier depuis le début, pourquoi est-ce que l'État a mis autant de temps ? Parce que cette nationalisation partielle, temporaire, on en parle depuis des mois. Avoir attendu que le tas de sable soit poussé autant, avec un écroulement quand même de l'action, et puis un groupe aujourd'hui qui vaut pas plus rien, mais enfin...
plus rien.
Quasiment plus rien. Non mais pourquoi ?
Parce que l'État attend toujours le dernier moment et l'état d'urgence pour intervenir.
Parce que l'État pensait que les choses allaient se décanter avec Airbus aussi, peut-être, qui a mis du temps.
Ils ont effectivement attendu de voir si Atos s'en sortait seul, si Atos parvenait à vendre un bout d'Atos à Daniel Kretinsky, ça n'a pas marché. Puis après, attendez de voir si Atos arrivait à vendre l'autre bout à Airbus, ça n'a pas marché. Ils ont dit, on va voir comment ça se passe. Puis, donc l'État intervient, mais en fait, par définition, toujours au dernier moment. Enfin, vous voyez, quand il y a des grandes crises, on le voit bien, les crises bancaires par exemple,
et c'est là justement
l'État intervient au moment où la banque est en train de s'effondrer.
Et puis toutes les solutions, qui sont aujourd'hui sur la table, vu la situation que nous décrit tout le temps Mathieu, c'est que là, on a touché le fond, d'accord. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est les créanciers, les
fonds.
Non, pas sûr, mais enfin bon, quand même, on n'est pas loin.
Moi, je dirais jamais ça.
Donc, ce soit une solution financière, avec des hedge funds qui prennent le pouvoir, soit c'est éventuellement le retour de Daniel Chretinsky qui attendait dans son coin qu'on revienne le chercher, et ben c'est quand même un check, même s'il ne montrait pas de blanche en France. Et donc toutes les activités militaires, il n'était pas, et puis David Layani, c'était pas complètement le genre de beauté de Bercy, donc il fallait qu'il trouve une solution pour tout ce qui est un enjeu d'un secret défense militaire pour la France.
Là, on a l'impression que c'est plus une question de gros sous qu'une question de projet industriel à très court terme.
En même temps, il faut rappeler les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une conséquence de l'effondrement global d'Atos. Parce que finalement, ces activités, c'est pas ces activités-là dont dépend aujourd'hui l'avenir d'Atos. Et donc, il y a un moment où l'État doit tirer quand même les conséquences de cette déconfiture. Et de se dire, il y a un moment où il faut effectivement sauver ses activités. Mais je veux dire, le fait de sauver ses activités ne résout aucun des
un problème sur le reste. Non, mais du coup, on peut avoir une solution financière, on peut avoir une solution avec Daniel Chretinsky qui en fait ne menace pas cette activité-là. C'est ça que je veux dire.
Ça donne un peu plus de marge de manœuvre.
Oui, mais alors d'ailleurs, c'est un duel qui pourrait éventuellement se terminer en duo. Enfin, on verra bien. Mais juste quand même, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le colbertisme industriel qu'on a pu connaître en France a complètement disparu? Parce que les pouvoirs publics avaient comme objectif de protéger l'intérêt des fleurons français.
On a connu bien pire. On a connu bien pire.
Enfin, on a connu bien mieux aussi.
Ah non. Ah oui, alors on a connu bien mieux. Mais
Alstom,
Technip, c'est pareil.
Alstom, Péchinet, tout ça. Il y a quand même eu un début des années. Si vous prenez le début des années 2000, le début des années 2000 a quand même été marqué. Prenez Lafarge, etc.
Oui.
On a abandonné complètement des pans entiers de notre industrie, strictement sans rien faire. Donc on peut dire que par rapport à cette époque-là, il y a eu les premiers sursauts avec la loi Montebourg, etc., où on s'est quand même dit c'est pas possible.
Avec PSA, Peugeot.
Oui, bien sûr.
C'était le premier gros dossier.
Donc je vous dis pas que c'est. C'est que l'État est très agile, vigilant, interventionniste. Mais disons qu'il est moins passif que ce qu'il a été à un moment.
Alors, accessoirement, écoutez, Thierry Breton, ancien patron d'Atos, bien sûr, qui était ce matin chez nos confrères de France Inter, évidemment, une question lui a été posée sur la situation d'Atos. Lui, il a dit, moi, en tout cas, quand je suis parti, ça allait très bien. Écoutez.
Elle était devenue numéro 1 en matière de service de cybersécurité en Europe et numéro 3 mondial. Elle était devenue numéro 1 en matière de supercalculateurs, notamment pour les modélisations de l'arme nucléaire française, et numéro 3 mondial. Elle était devenue numéro 1 en matière de serveurs.
Vous parlez au passé, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui a perdu 3,4 milliards d'euros et 80% de sa valeur boursière.
C'est effectivement l'entreprise que j'ai bâti avec le conseil d'administration, avec les salariés, et je vous dis simplement ce qu'elle était il y a 5 ans. Elle a été également numéro 1 en matière de traitement des données sécurisées, et tout ça a été fait, et je le dis, parce que je lis quelques erreurs par moment, c'est pas moi qui le dis, du reste c'est un an après, il suffit de regarder dans le rapport annuel de l'entreprise, c'est les dirigeants d'après qui l'ont dit, c'est une entreprise qui avait zéro dette nette.
Alors, allait-il dire l'inverse? Parce que c'est vrai que la responsabilité de Thierry Breton, elle commence à être pointée du doigt. Il a eu, il faut le dire aussi, une stratégie d'acquisition externe très bullish, comme on dit dans le monde de la finance, avec un sujet de valorisation.
Écoutez, Thierry Breton, il se dégage de toute responsabilité de l'état d'une société qu'il a dirigée pendant 10 ans. Donc, acte, c'est son choix. Moi, j'ai récupéré il y a quelques jours des documents confidentiels de la direction d'Atos, que la direction d'Atos a livré aux sénateurs quelques jours avant l'audition de ses dirigeants, hein, Jean-Pierre Michel, président, et Paul Salet, directeur général. Donc, des éléments effectivement très factuels, très froids, très financiers, dans lesquels il est clairement écrit, et donc ça vient de la direction d'Atos, encore une fois, qu'il y a eu des erreurs de commises en termes de politique d'acquisition, en termes de prix, en termes d'endettement, où les chiffres de la dette d'Atos sont donnés à fin 2019, au moment où Thierry Breton quitte l'entreprise. Et je ne vais pas rentrer dans des détails techniques qui vont ennuyer tout le monde, mais sur les sujets d'endettement, où effectivement, il y a eu un endettement très fort de la société Atos fin 2019, qui ont été la conséquence de cette politique d'acquisition menée par Thierry Breton. Et Thierry Breton joue sur des notions de dette nette, dette brute. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu une politique d'acquisition qui a mené à cet endettement. Ça ne veut pas dire que les résultats commerciaux...
C'est quoi, c'est boulimie,
ça ne veut pas dire que le virage industriel que Atos n'a pas pris, ou en tout cas a pris trop tard, est uniquement de son fait. Mais ce qui s'est passé avant 2019, de fait, lui revient.
Je pense qu'on peut juste dire, c'est qu'il a quand même... Ce que tu disais, le ministre de l'économie et des finances, quand je l'interrogeais, c'est qu'un, il y a quand même eu des acquisitions qui ont été à des prix trop élevés.
Voilà.
Il y a eu deux échecs, c'est l'entreprise américaine et la partie de Siemens. Ça a été mal, ça a été
mal calibré, acheté,
trop cher. Ouais. Et puis après, si vous voulez, il y a un problème d'exécution, comme on dit, ou d'intégration de ces sociétés au sein même de Atos. Si vous voulez, il a empilé, il a grossi. Mais après, il faut gérer l'ensemble, chose qu'il n'a pas faite.
Emmanuel, ça vous inspire ?
Je crois qu'il y a eu aussi des... Au-delà d'acquisitions sans doute faites trop chères et on a déjà vu ça dans le passé, il y a eu quand même aussi des choix stratégiques qui n'ont pas été les bons et qui ont été balayés par finalement les rouleaux compresseurs des GAFAM qui ont choisi finalement Meta, Amazon, etc. ont choisi d'autres stratégies sur la façon de servir leurs clients en matière de base de données et qui n'étaient pas les choix d'Atos, et on ne peut pas dire que là-dessus Atos ait eu raison.
En tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un étau qui va se resserrer sur les créanciers.
Les créanciers vont perdre en gros deux tiers de leur prêt.
Un petit peu casino,
c'était 50% l'année dernière, c'était deux tiers aujourd'hui, peut-être ça sera trois quarts demain. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Bon, il y a des remises d'offres vendredi, donc attendons trois jours de voir.
Donc
une offre industrielle mais financièrement un peu fragile, celle de David Layani, et une offre purement financière, celle de Daniel Kretinsky, qui... Bon. Avec le rachat des activités souveraines par l'État, maintenant a une voie totalement dégagée.
Vous avez une minute à vous quatre. Bon courage pour me dire si vous approuvez, parce qu'on va l'écouter à 19h. Patrick Pouyanné, qui était auditionné au Sénat, qui réitère ce qu'il a dit le week-end dernier, avant le week-end, c'est-à-dire que oui, il envisage de déplacer la cotation principale de Total Energy de Paris à New York. Est-ce qu'il a raison de le faire? Voilà. Une minute pour vous quatre.
Il a autant raison que le patron de Shell, qui dit exactement la même chose, parce que les pétroliers européens, aujourd'hui, sont sous-valorisés par rapport aux pétroliers américains, et qu'il y a un continent où on veut plus du pétrole. Il y a un continent où on veut encore du pétrole, et que pour l'intérêt de sa boîte...
C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut investir dans des sociétés.
C'est un peu la même chose, Edwige. Et donc, il aurait plutôt intérêt à aller se faire coter à New York.
Moi, je suis toujours fasciné par sa question de mettre l'épée dans le plat.
Oui, c'est clair. C'est sûr qu'en termes d'intérêt personnel, il n'aura plus de levée de bouclier, ni concernant son salaire, ni concernant les rachats d'actions.
Ouais, ça, c'est pas ça.
Donc, il sera beaucoup plus tranquille. Non, mais enfin, il va aussi avoir accès.
Le siège social reste en France.
Mais de toute façon, toujours est-il qu'il aura accès à une base d'investisseurs beaucoup plus importante.
Ils sont déjà américains, c'est pour ça qu'il...
Ça va être intéressant financièrement
Mathieu. Non, je pense que c'est une stratégie un peu risquée pour Patrick Pouyanné, parce que moi, je me souviens d'une époque où, quand on disait, qui est Total, qui n'investit pas en France, qui est cette entreprise globalisée, qui ne fait rien en France, qui ne paye pas d'impôts en France, et lui a eu ce discours plutôt intelligent en termes de communication, en tout cas au début, de dire Total est une entreprise française, une entreprise ne peut pas être apatride. Bon, ensuite il y a eu ce discours de dire mais Total ne fait pas que du pétrole et fait toutes les énergies. Vous voyez, il y a un logo derrière qu'il a changé, il a changé de nom, il a mis du vert dans son logo en disant moi je fais l'électricité renouvelable. Et puis maintenant il est en train de faire le grand écart au-dessus de l'Atlantique en disant on veut plus le moins en Europe, ce qui est quand même faux. Bon, enfin, il avait tenu une stratégie.
Mathieu, on peut pas nier que les groupes européens pétroliers sont sous-cotés par rapport à leurs concurrents américains aujourd'hui.
Ils sont archi
c'est très symbolique pour la France, c'est quand même la seule supermajeure pétrolière.
De là à faire sa première cotation à New York, je pense que c'est un petit peu compliqué, alors que il est quand même, c'est un groupe français. En termes de symbolique, je pense que c'est compliqué. Et puis quand il aura beaucoup d'actionnaires américains à son capital qui lui demanderont de dissocier ses fonctions de PDG, parce que là-bas, il n'aime pas ça.
Oui,
on verra s'il ne le regrettera pas.
On va écouter à 19h. Il dit que c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Voilà. Ouais. Bon. On va l'écouter dans quelques minutes.
Stratégie risquée.
Qu'est-ce qui m'a pris de lancer ce débat à 2 minutes de la France?
Oui, là, à mon avis, c'est un débat. Voilà.
Allez, c'est terminé pour cette première demi-heure. Merci beaucoup, Mathieu Pechberti. Merci, Emmanuel. À demain. Edwige, à demain, 18h10.
Demain, Spotify. Deux invités. Les résultats de Spotify. Et puis, Nathalie Belon. On connaît Sophie Belon. Nathalie Belon, la sœur qui s'occupe de Sodexo Life. Et puis, demain, ils vont dévoiler tous les menus. C'est eux qui font les menus de tous les athlètes pour les Jeux Olympiques.
Alors, ça. Hautement diététique.
On verra. Ça, c'est un sujet enthousiasmant.
Tout ça, donc, à 18h10, à demain, 18h57. Manon revient dans un instant.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti, 19h15 sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Avec nous bien sûr jusqu'à 20h. Et nos experts, ils sont là pour refaire l'actu du jour. Nathalie Janson est avec nous. Bonsoir Nathalie,
bonsoir.
Bienvenue. Professeur à Neoma Business School. Erwan Lenouan, bonsoir.
Bonsoir
Erwan, bienvenue. Consultant en stratégie au cabinet Altermind. Et Christophe Rameau est avec nous. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économistes atterrés. Alors on disait, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'Assemblée, et quoi, 50 députés à tout casser, franchement. Oui. Ça sentait le pont du premier, mais quand même, cette histoire. Mais c'est quand même parti un petit peu de tous les côtés, du côté des oppositions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce débat d'orientation budgétaire. Et même si on ne s'est pas fait dégrader, le gouvernement s'est quand même fait un petit peu chahuter aujourd'hui.
Oui, sauf que Bruno Le Maire, qui s'attendait à être bousculé, a pris la parole en premier pour plaider en quelque sorte pour sa cause. On l'écoute tout de suite.
Non, le financement de notre dette n'est pas menacé. Non, la France de 2024 n'est pas la Grèce de 2010. Gardons le sens de la mesure et gardons notre sang-froid. Mais vous me voyez quand même un peu surpris devant cette cohorte de parlementaires qui réclamait toujours plus d'argent naguère et qui exige toujours plus d'économies maintenant. Nous sommes la majorité qui a fait repasser la France sous les 3% de déficit public en 2018. Nous devons être la majorité qui fera repasser la France sous les 3% de déficit public en 2027.
Alors, la France n'est pas la Grèce. En effet, il a raison de le dire, ça c'est clair. Ceci dit, je reprends quand même une phrase qui m'a interpellée du communiqué des agences de notation. Nous, nous attendons à ce que la France soit placée sous procédure européenne de déficit excessif plus tard cette année. Donc c'est pas non plus la panacée, Nathalie Janson.
Non, c'est pas la panacée, mais on fait effectivement, enfin les agences font le distinguo entre les capacités. Il y a des critères très importants qui différencient les pays. Juste pour vous rappeler, le Japon qui a 243% de dette est classé en A1.
Il y a mieux que nous.
Non, ils sont plus bas.
Ils sont plus bas
parce qu'il faut avoir plusieurs A pour être mieux. Mais ils sont même pas en B. Vous voyez, comme par exemple la Grèce est en BA.
Donc on a de la marge.
Donc pourquoi est-ce que les Japonais sont pas si mal classés que ça? Parce que la Banque centrale a quasiment tout raflé de la dette souveraine, et de toute façon même avant ça, les Japonais en fait qui épargnent beaucoup en dette nationale. Eh bien vous prenez la même chose en France, et puis ça s'applique pareil, c'est-à-dire notre taux d'épargne il est pas mal, et en plus on adore les produits d'assurance vie, et devinez ce qu'il y a dedans, et bien des bons du trésor, donc de toute façon les bons souverains. Donc effectivement de ce point de vue là on n'est pas si mal que ça, et d'ailleurs quand on se compare, pareil, si vous comparez, la note de la France est assez similaire à la note de l'Angleterre, et l'Angleterre a une prime de risque plus élevée que la nôtre, donc on voit bien que le fameux pourcentage de dette, c'est pas l'unique critère. Donc pour une fois, on va pas reprocher aux agences de notation d'avoir été totalement stupides, puisque justement elles font un boulot où elles distinguent les capacités des différents pays. Et là, on voit bien qu'elles distinguent. Ça veut pas dire que l'État de la France.
Est-ce que ça veut dire, question que je vous pose à tous les trois rapidement, est-ce que vous êtes surpris, vous dites finalement le maintien de la note par Fitch et Moody's de vendredi est quelque chose d'assez logique, parce que je vois la semaine dernière le ton était quand même assez crépusculaire, faut pas se raconter d'histoire. Donc vous n'êtes pas étonné vous du maintien, ça
non, pas étonné plus D'accord. que ça, d'autant plus D'accord. que Fitch avait déjà donné une perspective négative l'année dernière. Donc en effet, par rapport à, parce que faut toujours comparer en fait à ce qui est noté, finalement ce n'est pas si surprenant.
Enfin Christophe, elles n'ont pas bougé la note, ceci dit elles disent que le retour au déficit public sous les 3% en 2027, elles n'y croient pas du tout.
La dette publique de la France s'est réduite de 4 points, c'est 4 points du PIB, ces 3 dernières années. C'est une baisse record. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'inflation, tout simplement. La dette publique de la Grèce s'est considérablement réduite ces 3 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'inflation. Donc quand on parle de dette, etc., ou de déficit, il ne faut pas regarder que le numérateur, il faut aussi regarder le dénominateur. C'est très important.
Oui, bah bien sûr, mais il faut aussi regarder le chiffre lié aux intérêts de la dette. 50 milliards d'euros cette année.
Les intérêts de la dette ont été plus faibles en 2023 qu'ils ne l'ont été en 2022. Parce que dans ces intérêts...
Oui, mais ça ne sera pas le cas ni pour 2023, ni pour 2024, ni pour 2025.
Les intérêts de la dette en pourcentage du PIB sont quasiment deux fois plus faibles aujourd'hui qu'il ne l'était au début des années 90. Parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt nominaux étaient élevés, mais il n'y avait pas d'inflation.
Aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'apogée de la politique économique du gouvernement.
Absolument pas. Là où je ne fais pas l'apogée, c'est que le seul moyen pour réduire la dette, c'est d'avoir de la croissance et un peu d'inflation. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il est en train de casser la croissance au nom de la dette, donc il est en train de casser la croissance en prenant un tournant vers l'austérité, à l'instar de l'Allemagne, etc. Donc on est dans cette situation où, à mon avis, le chiffre le plus important pour moi, c'est pas la notation, pas les agences de notation, là, carrément, c'est ce que va dire l'INSEE demain sur la croissance au premier trimestre.
Première prévision de l'INSEE demain matin sur le premier trimestre.
Demain soir.
C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus.
Demain matin. Erwan, comment est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous êtes surpris finalement de ce statu quo des agences de notation Fitch et Moody's ? Autant pour Fitch, on se disait, bon, ils nous ont déjà dégradé l'an dernier, autant pour Moody's, il y a quand même une vraie inquiétude là pour le coup. Hein.
Bon, je n'ai pas les compétences de mes deux collègues et amis pour pouvoir savoir si c'était surprenant ou pas. Ce que j'avais entendu, c'était comme d'autres observateurs, qu'il y avait une inquiétude très forte du gouvernement. Je ne crois pas. On sent qu'il y a un moment de soulagement, d'ailleurs, d'un point de vue politique aujourd'hui, on le voit bien.
Oui, ça c'est clair. Ouais.
C'est ouf, on est passé à côté du couperet. Enfin, cela étant, c'est vraiment juste un décalage dans le temps. Je pense que les problèmes restent là. Faire de la croissance, avoir une meilleure croissance, c'est effectivement indispensable. Mais bon, on voit bien que le gouvernement n'a pas trouvé les recettes. Et on a un contexte politique qui va, sur la question des finances publiques, se faire de plus en plus tendu. Demain, sauf erreur de ma part, je crois que LR va créer une commission d'enquête sur la dette publique et les raisons pour lesquelles on est arrivé là, avec des conclusions qui devraient... Et donc, le but est notamment de mettre en accusation la politique budgétaire du gouvernement, dont les conclusions devraient arriver ou être rendues publiques en octobre, quelque chose comme ça.
On a hâte de les voir, ces conclusions. Hein.
Voilà. Oui, alors avec pour remise en cause une présentation d'un budget insincère fin 2023. Oui.
Notamment, et aussi probablement des interrogations plus structurelles, enfin j'espère, sur la gestion des finances publiques en France, mais tout ça arrivera avant le dépôt ou la discussion sur le PLF, et donc va se reposer la question de la censure, qui est quelque chose que les LR, visiblement, qui tient à cœur aux LR sur les questions des finances publiques, mettant en partie de côté leur propre gestion des finances publiques quand ils étaient au gouvernement, hein, mais, et ceux des prédécesseurs du gouvernement. Mais on a là, progressivement, une impasse politique, ou en tout cas un enjeu politique qui est en train de se mettre en place, dont on verra le dénouement à l'automne, mais sur lesquels aujourd'hui une partie des observateurs, et notamment au sein de LR, parie sur le fait qu'il y aura une motion de censure qui sera adoptée sur la question budgétaire.
Et qui pourrait faire basculer le gouvernement.
Exactement.
Hein.
Et qui pourrait faire aussi basculer l'opinion des agences de notation, puisqu'on sait qu'une des critères regardés de près par les agences de notation, c'est la stabilité politique d'un pays. Mmh. Est-ce que c'est pas ça qui va nous jouer des tours finalement dans 6 mois, plus que le niveau de nos déficits publics finalement, et notre endettement, si ça se trouve.
Je pense que on a aujourd'hui, alors tout ça reste très prospectif, on est à 6 mois, etc.
Il y a ce qu'on a
un tour
dans un mois au passage, faut pas griller les têtes non plus.
Effectivement, dans l'hypothèse où une motion de censure sera adoptée, on va se retrouver dans une situation politique plus un peu complexe, où il n'y a pas de majorité alternative qui soit très nette, il n'y a pas non plus de volonté de coalition au sein des partis qui pourraient éventuellement faire une coalition ou élargir la majorité actuelle. Donc on va avoir un problème politique qui va venir s'additionner aux questions financières. Je ne suis pas dans le secret des agences de notation.
Oui, bon, après, en même temps, on temporise, parce que pour qu'il y ait motion de censure, il faudrait qu'il y ait une coalition, que les LR, en tout cas, décident à y aller, exactement. Et ça semble assez compromis. Mais juste quand même sur les mesures déjà prises pour établir les finances publiques. Donc, le coup de rabot sur les 10 milliards entre le gouvernement et les collectivités locales et la réforme de l'assurance chômage dans les tuyaux, qui ont semblé donc convaincre, en tout cas à très court terme, ces agences de notation. Est-ce que vous dites, en effet, qu'on s'est remis sur les rails, Christophe Rameau ?
Comment dire ? Un point de pédagogie très, très important.
Oui.
Il faut savoir que dans le PIB, vous avez deux composantes au niveau de la demande. Vous avez l'investissement, puis vous avez la consommation globale.
Oui.
La consommation globale, ça représente plus des trois quarts de la demande et ça tire largement l'investissement, parce que les entreprises ne produisent pas des machines pour produire des machines pour produire des machines. Il faut bien que ça serve à un moment donné à produire des produits de consommation finale. Très bien. Quand on prend cette consommation finale, c'est un chiffre très peu connu. Mais en fait, la moitié, vous entendez bien, la moitié de la consommation globale est socialisée. C'est-à-dire soutenue directement ou indirectement par la dépense publique. Directement, bah, c'est les services publics. D'accord ? Les services publics, ça augmente le PIB. Un fonctionnaire, ce n'est pas un productif, ça augmente le PIB chaque jour où il travaille. Très bien. Ça, ça représente de l'ordre de... On est à peu près à 450 milliards. Ensuite, vous avez la part remboursée des médicaments. Et des consultations de médecine libérale, ça représente 170 milliards.
Oui, enfin, ça baisse, ça.
Oui, mais... Non, mais ce qui est important, c'est les marchandises. Mmh. Ce que je veux dire, on est sur du lourd là, on n'est pas sur là. Mmh. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces. C'est plus de 500 milliards. C'est-à-dire, c'est les retraites d'abord, 350 milliards, les allocations chômage, les minima sociaux, etc., les allocations familiales. Qu'est-ce que font les retraités avec leurs pensions? Ben, ils font leurs courses. Si on prend des calculs tout bêtes de taux d'épargne moyen, puis de taux d'imposition, parce que les retraités, ils payent de la CSG, etc., eh bien, on arrive à 370 milliards de consommation auprès du privé. J'insiste sur ce point. Hein, quand je dis la moitié de la consommation globale est socialisée, il y a une part, c'est de la consommation de services publics, mais l'autre part, la moitié de cette socialisation, c'est de la consommation privée qui est permise par la dépense publique. Quand le gouvernement fait de l'austérité, parce qu'il fait de l'austérité, il fait un tournant vers l'austérité.
De ne pas avoir un consensus sur le thème d'austérité autant de cette
mais il fait un tournant vers l'austérité. Mais comment dire, si vous voulez, le gouvernement, il a des positions libérales. Il considère que la dépense publique, c'est un fardeau. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est de l'essence dans le moteur. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais justement, en parlant d'essence dans le moteur,
et donc, résultat des courses. Mais le résultat des courses, il est là. Le résultat des courses, il est là. C'est qu'on a une croissance totalement piteuse et on est en train de décrocher.
Mais je vous signale
l'Europe décroche par rapport aux États-Unis où on n'a pas cette vision.
On s'attend à un rebond en termes de croissance d'ici la fin de l'année, Nathalie.
Oui, peut-être. Alors là, je ne serais pas aussi certaine que ça. Mais par contre, pour revenir au thème, en fait, le problème, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, évidemment, je ne vais pas vous dire que la dépense publique ne contribue pas à la croissance. Mais si ça avait été privé, peut-être que ça aurait été une meilleure croissance. Donc en fait, c'est toujours pareil. En économie, c'est toujours de l'allocation des ressources. Et vous faites ça ou ça. Donc, ce qui va dans le public ne va pas dans le privé. Évidemment, là, je caricature, mais c'est un peu ça. En fait, lorsqu'on adresse une critique à la dépense publique, c'est plutôt de dire, en fait, le problème, ça vient de la décision publique. Est-ce qu'en fait, une décision qui aurait été prise autrement n'aurait pas généré des effets plus importants?
Les trois quarts de la dépense publique, ça soutient, mais ça va directement au privé.
Mais si ça avait été privé, ça aurait été peut-être
avec des retraites par capitalisation.
Alors,
Erwan, vous pensez que ça aurait
pas d'accord avec vos chiffres.
Non, mais surtout, là, il y a, pour rejoindre ce que vous avez dit, l'autre question, c'est savoir si la dépense, une fois qu'elle est publique, est-ce qu'elle est réellement efficace? La dépense publique en France n'a pas arrêté de croître.
L'efficience de la dépense publique.
Est-ce que les fonctionnaires et agents publics sont heureux de la façon dont fonctionnent les services publics? Non, visiblement, entre les grèves, les manifestations, dans l'hôpital, dans l'éducation, les gens ne sont pas contents. Est-ce que les usagers sont contents du service public hospitalier, du service public éducatif, du service public de sécurité? Visiblement, non. Donc on a un système qui, effectivement, contribue à la croissance, mais aujourd'hui, plus on y met de l'argent, moins les gens semblent satisfaits. Donc, à tout le moins, ça n'est pas efficace. Et donc, il y a une question de savoir si la dépense publique...
Je précise juste que c'est exactement ce que Thomas Cazeneuve, qui était sur ce plateau il y a une heure, disait sur le sujet de la qualité du service public et qui s'effondre sur tous les sujets. Et que donc, il faut raboter puisqu'on a aujourd'hui un système qui ne fonctionne plus.
Christophe, si je puis me permettre. La part des ressources qui servent à payer les services publics, notamment principalement les salaires des fonctionnaires, en comptant les cotisations sociales. Il faut savoir que cette part-là, elle n'a pas augmenté, écoutez-moi bien, depuis 40 ans, depuis le milieu des années 80. Quand vous dites que la dépense publique a augmenté, d'ailleurs, une petite parenthèse, elle a baissé en pourcentage du PIB l'année dernière. D'accord ? Donc, ce qui a plus baissé encore, c'est les prélèvements. D'accord, c'est les recettes. Il y a un problème de recettes. D'accord, c'est pas un problème de dépenses qui a fait creuser les
chiffres. Mais donc, je termine.
Ce qui a augmenté les dépenses publiques, les dépenses publiques sur longue période, elles ont augmenté. Mais ce qui a augmenté, c'est pas la part consacrée à payer les services publics qui vont très mal. Parce que normalement, plus une société est riche, vous savez, plus elle doit consacrer de l'argent pour l'éducation, La santé et la culture.
Non seulement ça ne veut pas dire de l'argent public, mais en plus, attendez, mais je suis d'accord avec vous.
L'éducation, ça ne veut pas dire l'argent public.
Alors,
Erwan, l'éducation, ce n'est pas l'argent public.
Ça ne veut pas dire l'argent public.
Vive les écoles privées.
La preuve en est qu'il y a...
Les écoles privées sont sous perfusion publique.
Mais pas du tout. Vous avez des écoles qui sont intégralement privées en France. L'éducation ne veut pas dire argent public. Il existe d'autres manières de remplir. On a même en France, je vous signale, on est l'un des pays où, en termes de services de sécurité, on a des entreprises privées qui sont assurées, y compris des équivalents militaires pour
vous la sécurité. Vous voulez aussi privatiser la police ?
Non, pas du tout, mais je vous dis que ça existe. Donc, mais pas du tout. Ça existe. Autrement dit, vous pouvez quand même reconnaître que compte tenu du niveau de dépenses publiques et de finances publiques, on ne peut pas affirmer comme
ça
vous le faites.
Ça n'a pas augmenté depuis 30 ans.
Mais à la limite, admettons que ça n'a pas augmenté. On peut quand même poser la question de l'efficacité de la dépense publique, quand bien même elle aurait baissé.
Toujours. Il faut toujours savoir l'effet.
Et donc, il vous semble qu'aujourd'hui, elle est efficace.
Il y a 5 minutes.
Et ben voilà, vous étiez d'accord.
Il y a 5 minutes, on était sur les agences de notation, on a basculé sur les médias de l'efficacité de la dépense.
Ah, ben c'est lié.
Il y a une question, j'ai pas le temps de vous poser en 20 secondes. Certains ont dit sur ce plateau depuis quelques jours, même avant l'annonce du statu quo des agences de notation, finalement, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver que d'être dégradé, qu'il y ait un signal d'alerte. Ça ne serait pas fait trop sentir sur le niveau de nos taux d'intérêt aujourd'hui, mais voilà, psychologiquement peut-être.
Oui, ça aurait enfoncé le clou peut-être.
On ne saura jamais. Encore que, on verra ce que dit.
Attendez, oui, on a encore le 30 mai.
Prochaine séance. Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, les experts décryptent pour vous le cas Atos. Nous sommes avec Erwan Lenoir, Nathalie Janson et Christophe Rameau. Alors, comme on s'y attendait, Bruno Le Maire l'a annoncé, c'était hier, l'État a bien manifesté son intérêt en vue de reprendre l'ensemble des activités donc dites souveraines du groupe. Et donc, il a clairement évoqué tout ce qui touche à la cybersécurité, et c'est en gros les supercalculateurs ou encore le nucléaire.
C'est évidemment une bonne nouvelle, d'autant que le groupe nous a dit ce matin que sur l'exercice 2024-2025, en gros, il n'aurait pas besoin de 600 millions, mais d'1,1 milliard d'euros.
Ouais.
Comment est-ce que vous voyez ça ? Un dossier dont on parle quasiment tous les soirs, pour tout vous dire. Donc on peut faire court, si vous voulez nous dire un mot sur le dossier Atos. Est-ce que vous voyez le début de l'esquisse du commencement d'une solution ? Une sortie de crise, Nathalie, comment est-ce que...
Ah ouais, moi, je trouve que ça illustre bien que l'État veut toujours tout faire, donc c'est un beau cas d'école.
Le problème, c'est que les industriels ne veulent pas y aller, là, tout le monde traîne des pieds.
Justement, c'est un indicateur. A priori, ça indique quelque chose quand ils ne veulent pas y aller, surtout des gens comme Thalès. Donc moi, je trouve ça génial, on est bien en France, c'est-à-dire que personne ne veut y aller, donc l'État y va. Donc,
enfin, mais
juste... Alors, attendez, non mais quand même, la responsabilité du gouvernement, c'est quand même de protéger les fleurons industriels du pays, surtout quand ils sont indispensables à la défense.
Oui, mais est-ce vraiment un fleuron nationale. Et est-ce qu'on n'a pas quand même d'autres équivalents qui pourraient en fait venir se substituer? Donc là c'est... de toute façon, c'est le cas typique, on va invoquer la souveraineté, alors que de toute façon, on peut très bien avoir des formes différentes où c'est le privé sous garantie de l'État, ou en tout cas avec un accord, c'est-à-dire avec un cahier des charges qui le fait. Mais là, je trouve que c'est effectivement l'exemple typique, et comme on disait tout à l'heure, l'État français cherche de l'argent, et voilà, il va là, alors que s'il va là, il va pas ailleurs.
Vous c'est l'allocation. En espérant quand même que les industriels derrière...
Oui, mais le problème est toujours le même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on y va en se disant, donc c'est une allocation des ressources.
Si je peux me permettre, vous y allez fort, là, quand même.
Ah oui, alors là, j'ai carrément été très, très dur.
Non, mais précédemment, dans la première partie de l'émission, vous nous dites « Vive le privé qui est efficace et abat le public ». Vous êtes au courant qu'Atos, c'est une entreprise privée ? Vous êtes au courant que c'est une entreprise privée, dirigée accessoirement, est-ce accessoire, par un ex-ministre de l'économie ?
Ouais, écoutez,
on voit où ça nous mène, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une entreprise privée qui a montré à quel point le privé pouvait se livrer à une gabegie financière, à des montagnes de spéculation, et vous accusez l'État, vous trouvez le moyen d'accuser l'État qui arrive pour socialiser les pertes et qui arrive, excusez-moi, pour protéger lui, effectivement.
Mais il arrive un peu tard,
qui arrive effectivement parce qu'il y a des enjeux de souveraineté qui sont importants.
La demande est un peu la commande publique.
Le privé, on n'a pas. Vous avez évoqué un tout petit peu aussi Lagardère aujourd'hui.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? Dire le public. Je suis pour le privé.
Non, mais c'est pas toujours le cas. Moi, il n'y a pas de problème.
Je suis pour le privé, d'accord ? Je suis pour l'initiative privée, mais quand on me dit le privé est synonyme d'efficacité et le public est synonyme de gabegie, Un peu de tenue.
Le privé est synonyme d'efficacité quand on laisse faire faillite.
Passons,
donc là, il ne fait pas faillite, en l'occurrence.
Très bien.
Oui, mais alors justement, il ne fait pas faillite. Erwan, il faut le rappeler, la capacité d'Atos, notamment sur les supercalculateurs, c'est un savoir-faire unique en Europe. C'est des milliards de calculs à la seconde. Et au moment où on voit cet avènement pour l'intelligence artificielle, enfin, c'est quand même essentiel de protéger tout ça.
Alors, je pense que s'il y a un intérêt à protéger les actifs d'Atos qui sont concernés, c'est notamment parce que, si j'ai bien compris, ils servent au service de renseignement français. Oui. Les supercalculateurs sont utiles à la dissuasion nucléaire, donc il y a des sujets de défense derrière. Le fait que ce soit qu'il y ait l'IA, etc., à mon avis, ça prouve au contraire à quel point l'entreprise a peut-être eu des problèmes de gestion dans le passé, parce que dans un secteur qui se développe à ce point, elle devrait avoir été portée par ça. C'est pas le cas. Après, sur la question de savoir est-ce qu'il y avait des alternatives privées, moi je comprends que les acteurs privés qui ont été sollicités n'étaient pas volontaires, mais en tout état de cause, pour revenir sur le point qu'on donnait à l'instant, quand même, le fait qu'il y ait des échecs privés ne montre je vois pas en quoi ça prouve l'inefficacité du secteur privé. Au contraire, ça montre que le secteur privé fait le nettoyage.
Regardez Airbus qui a connu bien des avatars par le passé, c'est quand même une formidable réussite du privé, avec effectivement dans un premier temps le concours du secteur public,
avec un très gros Alstom concours aussi, hein. Avec un énorme concours.
C'est la même chose. Atos, il y a des commandes publiques derrière.
Si on considère qu'il y a des besoins de politique industrielle, il faut du privé, mais il faut aussi du public, sinon... Bon, bref.
Bah, puisque vous en parliez, Thierry Breton, justement, on va l'écouter, qui était ce matin chez nos confrères de France Inter. Évidemment, il y a une question sur Atos. Lui dit, moi, en tout cas, quand je suis parti en 2018, ça allait très bien. Écoutez.
Elle était devenue numéro 1 en matière de service de cybersécurité en Europe et numéro 3 mondial. Elle était devenue numéro 1 en matière de supercalculateurs, notamment pour les modélisations de l'arme nucléaire française, et numéro 3 mondial. Elle était devenue numéro 1 en matière de serveurs...
Vous parlez au passé, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui a perdu 3,4 milliards d'euros et 80% de sa valeur boursière.
C'est effectivement l'entreprise que j'ai bâti avec le conseil d'administration, avec les salariés, et je vous dis simplement ce qu'elle était il y a 5 ans. Elle a été également numéro 1 en matière de traitement des données sécurisées, et tout ça a été fait, et je le dis, parce que je lis quelques erreurs par moment, c'est pas moi qui le dis, du reste c'est un an après, il suffit de regarder dans le rapport annuel de l'entreprise, c'est les dirigeants d'après qui l'ont dit, c'est une entreprise qui avait zéro dette nette.
Alors zéro dette nette, ce qui est reproché quand même à Thierry Breton, c'est la stratégie d'acquisition externe qui a été faite sur des valorisations qui étaient mauvaises, et ça illustre la gabegie dont vous parliez, Christophe Rameau.
Compare ça avec sa valorisation boursière qui était complètement surestimée. Mais voilà, donc il a monté une entreprise, il en est entièrement responsable, enfin en partie avec son équipe, d'accord ? Mais on assume que quand on est dirigeant, il est entièrement responsable d'avoir mené une stratégie de croissance externe à coût d'endettement massif, et la bulle spéculative autour de la valeur de ses actions a explosé. Voilà, enfin, on a connu ça dans l'histoire du capitalisme, c'est pas la première fois, et si le public ne met pas le holà là-dessus, eh bien, on va dans l'alternance de bulles et de craques.
C'est surtout une erreur de stratégie.
Sur un secteur qui est porteur comme
Moi, j'en sais rien. Moi, je suis pas.
On arrivait là.
Oui, je ne suis pas spécialisée. La papille qui est dans la caisse. Voilà. Mais je pense que c'est. Enfin, dire, après, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas la vision qu'il faut au moment où il le faut, puis c'est tout, quoi.
Bien. Patrick Pouyanné, sujet qui va peut-être...
Je
ne crois pas. Patrick Pouyanné, le patron de Total, auditionné devant le Sénat, c'était tout à l'heure. C'était prévu de longue date pour évoquer les engagements climatiques du groupe. Sauf qu'évidemment, il s'est fait un peu titiller sur les propos qu'il avait tenus juste avant le week-end, Audrey.
Oui, vendredi dernier, il a déclaré qu'il réfléchissait à déplacer la cotation principale de l'entreprise de Paris à New York au motif que Wall Street est plus favorable aux investissements dans les hydrocarbures.
Il a confirmé.
On l'écoute tout de suite.
On l'étudie pourquoi ? Pour une raison simple, ce que j'observe, c'est que la base d'actionnaires européens de Total Energy diminue, notamment la base française. Nous avons perdu 7% d'actionnaires français au cours des 4 dernières années, largement à cause des réglementations, de la pression qui est faite sur eux. Et à l'inverse, les actionnaires américains achètent notre action. Et la part d'actionnariat institutionnel américain est passée de 37% à 47%. La première personne qui a parlé de cette idée-là, c'est le patron de Shell, il y a peu de temps, a constaté que les entreprises énergétiques européennes sont très décotées par rapport aux entreprises énergétiques américaines. Nous avons publié nos résultats vendredi. Nous avons exactement les mêmes résultats trimestriels qu'une entreprise comme Chevron. Notre valorisation en bourse est de 200 milliards, elle est 330 milliards pour Chevron.
C'est la différence entre le marché américain et le marché européen.
On ne quittera pas la Bourse de Paris, on gardera, de toute manière, si on fait le mouvement, ce qui n'est pas encore décidé, je le redis, on garderait une cotation secondaire à Paris.
Et le siège, pardon, le siège social, ouais. Il a dit aussi, restera à Paris, évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Évidemment.
Oui, enfin quand même, seule super major pétrolière au sein de l'Union européenne, au moment où l'Europe entière et la France se démènent pour attirer des investissements étrangers, symboliquement, ça serait compliqué, non, Erwan?
Non, en réalité, pardon, mais c'est parce que symboliquement, ça serait évidemment pas une bonne nouvelle qu'un grand opérateur français soit coté à New York, mais en même temps, il faut être cohérent. On ne peut pas en permanence dire on est contre le pétrole, on ne veut pas les entreprises pétrolières, et ensuite faire des réglementations qui leur sont défavorables, merci, et après se dire alors pourquoi s'en vont-ils? Enfin, c'est quand même extraordinaire.
Je les gestionnaires d'actifs sont trop rigoristes en Europe, finalement, le label.
Mais surtout, le vrai sujet, ce qu'il dit bien, ce que dit bien Tuchel, c'est qu'ils ont une base d'actionnaires qui est, je crois, maintenant quasiment majoritairement américaine, hein, si je me souviens.
40% nord-américain, 40% nord-américain, 44% les Européens. Et voilà, les courbes se croisent, quoi.
Et ça contraint, de fait, en fait, leur capacité de financement pour financer leur transition. Donc, en fait, ils sont comme un certain nombre d'entreprises où ils se retrouvent aujourd'hui avec des injonctions contradictoires, et notamment d'une valorisation qui baisse et des demandes d'investissement qui sont absolument nécessaires pour se transformer. Donc moi, je ne suis absolument pas choqué, je trouve ça même plutôt rationnel, c'est la preuve que le secteur privé est efficace.
Je vous le dis tout de suite, alors Christophe Rameau n'est pas d'accord, là il trépigne sur sa chaise.
Là, je remets une couche.
Nathalie,
effectivement, en plus, Shell est dans la même position, et est en train de prendre la même décision, pour les mêmes raisons. Donc en fait, on n'a pas que Total, on a Shell qui s'ajoute à la liste. Et effectivement, comme Erwan l'a très bien expliqué, en fait, le problème, c'est que du coup, ils se retrouvent à avoir besoin de financement pour aller plus vers pour avoir leurs projets verts qui seront là, mais du coup, qui leur coûtent plus cher parce qu'ils sont en fait moins. Et ça leur coûte plus cher de lever des fonds en fait en Europe qu'aux États-Unis. Donc effectivement, ils vont pas quitter la place européenne. Ils font juste que la cotation majeure va être à New York, simplement parce que ça va leur permettre en fait d'avoir un accès plus facile à un financement moins coûteux.
Christophe.
Mais comment dire, le capital n'a pas de patrie.
Oui.
Ah ben ça oui.
Vive la mondialisation heureuse.
Le siège social reste à Paris, les salariés restent les premiers actionnaires avec 7,5% du capital, Christophe.
Il n'y a rien qui change. Hein.
C'est pas la capitulation en race campagne,
non. Vous connaissez que les histoires, c'est pas par pas. D'accord. Donc au départ, on commence à quitter la bourse. On garde, bien entendu.
Il ne les quitte pas. C'est le délisting.
C'est la cotation principale.
La cotation principale, c'est à New York. Merci, c'est bon, d'accord. Ok. Donc c'est bon, d'accord. Par contre, le siège social, dans un premier temps, restera là. Mais la pente, c'est celle-là. Le problème qu'on a, c'est que même les bons libéraux, les théoriciens libéraux, ils disent que quand il y a des rentes, eh bien, il y a besoin d'intervention publique. Sinon, et typiquement, le pétrole, le gaz, le pétrole, c'est une économie de rente. D'accord? Et donc, il est absolument scandaleux que sur cette économie de rente, parce que ça, c'est un vrai problème, on a un vrai problème démocratique, là. La puissance économique de Total, c'est pas rien. D'accord? Et à l'heure de la transition énergétique, donc j'espère sur ce plateau, qu'on considérera que c'est quand même un enjeu majeur du 21e siècle, d'accord? Eh bien, on a un problème là-dessus qui est que, voilà, on a besoin d'organiser la transition énergétique et on a des mastodontes financiers, d'accord?
On aura besoin Total, de Total pour ça.
Mais on a besoin, on va pas laisser à Total, qui est obsédé, et on comprend, c'est normal, qui est obsédé par sa valorisation boursière, etc. Et c'est pour ça, il le dit lui-même quasiment, si vous l'écoutez bien, si on se déplace aux États-Unis, notre cotation principale, c'est parce qu'on veut échapper à trop de réglementations.
En termes de valorisation,
moi, je suis républicain. Oui. Je crois à l'intérêt général. Oui. D'accord? Donc je pense qu'il faut du privé, pense qu'il faut un pilotage politique, surtout sur un secteur aussi stratégique, et je le répète, ce sont des rentes sur lesquelles...
Je donne les ordres de valeur, puisque Patrick Pouyanné mentionnait Chevron, c'est vrai que la valorisation aux États-Unis, Exxon Mobil et Chevron se valorisent à 6 fois leur EBITDA, alors que évidemment, à Paris, c'est 3,5 fois, donc évidemment, il y a un sujet de rentabilité, de valorisation et de cotation.
C'est un pur sujet économique, mais mais donc d'accès au financement, je vois pas en quoi ça remet le républicanisme, quand bien même il faudrait qu'une entreprise soit républicaine, mais je vois pas en quoi ça le remet en cause.
Tous nos fleurons français partent petit à petit.
D'accord, mais à nouveau on ne peut pas dire on n'en veut plus, et quand ils s'en vont, pleurer.
Mais Total n'a aucun problème de capacité de financement, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Aucun. Problème de capacité de financement pour
Total. Pour pouvoir financer les investissements, ils lèvent des fonds plus facilement à un coût moins cher, c'est tout. Enfin, c'est pas, on n'a jamais dit qu'ils avaient problème de capacité de financement. On disait qu'ils avaient accès à un financement plus large.
Ils se font virer de plein de fonds d'investissement européens.
Exactement, parce qu'ils ne sont pas engagés.
Ça remet en cause la souveraineté politique.
Oui, mais c'est fait pour les engager encore plus dans cette fameuse transition, Nathalie, pas pour qu'ils partent.
Et bien, justement, eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait ils le feront d'autant plus facilement qu'ils iront en cotation principale à New York, c'est tout.
Oui, mais ils investiront beaucoup moins en Europe,
les normes françaises sont, les normes européennes parviennent à leur objectif, visiblement dans le cas Total, non.
Je cite Patrick Pouyanné pour clore ce débat qu'il disait il y a quelques mois, je cite: jamais je ne convaincrai ceux qui se sont mis dans la religion de la fin du fossile, pour eux nous sommes le fossile en France, donc il faut en finir avec Total Energy. Voilà ce que disait Patrick Pouyanné il y a quelques mois. Voilà. Refermons ce dossier, parlons un petit peu du train, tout simplement.
Oui, allez, on va parler de la SNCF, puisqu'elle innove. Elle a dévoilé ce matin à Belfort, chez Alstom, ce qu'on présente déjà comme le TGV du futur. Ça sera la 5e génération, plus écologique, plus spacieux aussi, nous dit la SNCF.
Alors ça, c'est ce qu'elle nous promet, sauf qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps que prévu, parce qu'il y a eu du retard. Mais apparemment, les premiers de ces TGV devraient être livrés à l'automne. Écoutez, Christophe Fanichet, c'est le patron de SNCF Voyageurs, qui était ce matin du côté de Belfort. Écoutez.
Un train, un nouveau train, c'est d'abord un projet. Et on le sait tous, un projet, c'est pas à pas qu'on découvre facilités et difficultés. Mais ce que je veux vous redire, c'est que nous sommes confiants, nous, SNCF Voyageurs, sur le fait que le calendrier du deuxième semestre sera tenu. Oui, on a eu des sujets de batterie. Oui, on a des sujets que nous découvrons pas à pas, mais que nous résolvons aussi pas à pas. Et aujourd'hui, on est très confiants sur cette livraison au second semestre. Mais comme je vous le dis, avec impatience.
Alors attention, la commercialisation, c'est pas avant la mise en service, c'est pas avant l'année prochaine, attention.
Alors que c'était censé être prêt avant les JO.
Oui, ouais. C'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on voyait les chiffres, là vous avez 800 salariés d'Alstom qui travaillent à Belfort, et là les 115 commandes, ça leur procure du travail pour une dizaine d'années, c'est quand même une super nouvelle ça. Oui, mais...
Ah, mais la commande publique a du bon, ça c'est clair.
Comment dire, sur la SNCF, hein, il faut savoir que la SNCF, le ferroviaire, est en concurrence complètement déloyale par rapport à la route, et par rapport au transport aérien.
Parce que pas assez
la route, il faut savoir que les transporteurs, parce que ce qui détruit une route, c'est pas la bicyclette, c'est même pas les voitures, c'est les poids lourds. Et les transporteurs de poids lourds, si on met de côté les autoroutes, mais enfin maintenant il y en a plein qui circulent sur les nationales, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Pour échapper aux péages. Et donc, comment dire, c'est le contribuable, en fait, qui finance par ses impôts l'entretien des routes au bénéfice du transport routier, notamment de marchandises. Et c'est terrible en France, la situation. On a que 10% du transport de marchandises qui est fait par le fret. C'est terrible. Mais sur le fret ferroviaire. Et l'autre problème, c'est le transport aérien. Il y a des études qui ont montré que si on introduisait enfin une taxe sur le kérosène, d'accord, eh bien, on pourrait rapporter 4,7 milliards. Avec ces 4,7 milliards, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait distribuer un chèque de 500 € pour près de 10 millions de ménages les moins aisés qui pourraient comme ça pouvoir, parce que le train coûte cher, hein, relativement cher, eh bien, on pourrait comme ça faire du tarif véritablement social.
Mais cette taxe sur le kérosène a été dans les tuyaux très longtemps, mais n'a jamais abouti.
Mais oui, vous savez ce qu'on nous a dit les libéraux? Oh, ça serait bien de le faire, mais à l'échelle mondiale ou européenne. Vous savez, la carte de la mondialisation.
Compétitivité aussi, Christophe.
Mais vous savez que les avions, la France est une grosse destination touristique, et les avions qui traversent la France, c'est très difficile de contourner. On est quand même un grand pays.
Deux minutes avant vos avis, une minute chacun, grosso modo, sur ce sujet.
Je ne suis pas une spécialiste du train. Je pense que le fait qu'il y ait des trains, qu'on pousse à avoir des trains qui soient plus efficaces, moins consommateurs, c'est toujours des bonnes nouvelles, plus écologiques. Et d'ailleurs, de la même façon, puisqu'on parlait de l'aérien n'est pas en reste aussi là-dessus, parce que je pense qu'ils sont tous mus par le même objectif d'avoir effectivement des, de pouvoir survivre dans le temps. Donc en plus l'aérien, je dirais plutôt que le train, puisque c'est plutôt le train qui a la cote et pas l'aérien. Mais l'aérien, en raison de cette de ce poids, il part avec un poids au pied. Eh bien il va d'autant plus faire des innovations pour pouvoir répondre en fait à cette concurrence du train.
Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'une consommation d'énergie inférieure de moins 20% au rame actuel, hein, Erwan.
Oui, mais le train de manière générale est un transport qui est connu pour être décarboné, en tout cas moins carboné, beaucoup moins carboné que le reste. C'est un vecteur pendant essentiel de la décarbonation des transports en France et au-delà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la SNCF investisse dans ces nouvelles rames. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui probablement à se développer. La preuve en est qu'il y a des concurrents qui vont entrer sur le marché.
Qui ont du mal quand même encore.
Qui ont du mal encore, mais on est juste au début là. Mais qui vont arriver et, et qui conduisent la SNCF également, je crois, à revoir sa stratégie pour être elle aussi plus offensive.
La concurrence a du bon.
Ce qu'on nous dit, c'est que dans un TGV, vous mettez 560 personnes. Là, avec celui-là, vous pouvez mettre jusqu'à 740 personnes. Et donc, la SNCF se risque à dire que potentiellement, ça pourrait faire un prix du billet moins élevé. On va attendre une petite année pour le savoir, ça, finalement. Voilà.
Mais
ça
et sur un problème de... Si la demande est beaucoup plus élevée aussi, exactement. Je ne sais pas s'ils y arrivent.
Oui, mais des frais de maintenance se réduisent de 30% aussi.
Oui.
Ah, mais la demande, elle est là, hein.
Elle est très, très là. Elle est très présente, ça se voit.
Voilà pour ce TGV, le TGV du futur, donc présenté aujourd'hui du côté de Belfort. Il nous reste 3 minutes. C'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs. Vos avis sur 30 secondes, coup de cœur ou coup de gueule. Bah oui, c'est 30 secondes, c'est court. Mais vous êtes désormais rompu à l'exercice. Christophe, est-ce que vous voulez commencer? Allez, une seconde, allez, c'est à vous.
Un chiffre, c'est on a un taux d'épargne en France qui est encore de 3 points supérieur à ce qu'il était en 2019. C'est colossal. Ça brime l'activité, bien entendu. Ça ne tire pas la croissance. Et de mon point de vue, c'est lié. On a une raison de plus pour faire de la redistribution. Ceux qui épargnent, il ne nous a pas échappé, ce n'est pas les bénéficiaires du RSA, etc. C'est principalement les plus aisés. Et donc là, une épargne qui d'ailleurs est une épargne très, très financière, de plus en plus financière, l'immobilier se porte mal. Donc je pense que là, on a une raison de plus pour aller dans le sens de la justice fiscale et réduire et rétablir nos comptes.
Et rétablir nos comptes, évidemment, c'est le sous-jacent.
Voilà. Nathalie Janson, vous emboîtez le pas.
Ah, moi, j'ai fait un spécial pour faire plaisir à Christophe Rameau.
Alors
il va encore être très heureux. Je vais féliciter Javier Milei.
Encore
pour avoir dernière.
Il me semble que ce n'est pas la première fois.
Alors, il y a une petite
C'est parce qu'il a fait sa conférence de presse la semaine dernière pour confirmer qu'il avait donc obtenu un excédent budgétaire. On va envoyer Bruno Le Maire, en fait. C'est tout simplement... Dans un temps assez court, il a effectivement réussi à avoir un excédent primaire du budget pour le premier trimestre. Et donc, en ligne avec ce qu'il avait, son objectif de départ.
Mais est-ce que c'est de son fait? Parce qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, quand même.
Oui, c'est de son fait. C'est parce qu'il a été très... Il a coupé très partout, drastiquement avec les provinces.
Ah oui, la tronçonneuse et tout.
Il a prié les provinces de se gérer toute seule.
Cette image de la tronçonneuse est gravée dans ma mémoire à tout jamais. Je crois que c'était assez
impressionnant. N'oubliez jamais la phrase de Javier Milei. Je préfère la mafia à l'État.
C'est un autre débat.
Écoutez, j'ai longtemps hésité sur le thème. Je me suis dit, est-ce que je choisis un thème polémique comme le scandale de ce qui est en train de se passer à Sciences Po? Mais j'ai décidé de parler de quelque chose de beaucoup plus technique. La semaine dernière, je ne me trompe pas, il y a eu l'annonce du plan d'allègement, de réglementation, de simplification, pardon, du gouvernement. Oui. Dedans, il y a une micro-mesure qui est intéressante, c'est un sujet qui m'intéresse, qui est la réforme du contrôle des concentrations. On a élevé les seuils, autrement dit, on va contrôler beaucoup moins les entreprises qui se rachètent. C'est la preuve d'un mouvement vers une plus grande consolidation de l'économie pour des opérateurs qui doivent affronter des concurrents toujours plus intenses, le numérique, la mondialisation dont on a beaucoup parlé. Donc c'est la preuve qu'il y a une inflexion en termes de politique économique et de concurrence en France qui est assez intéressante.
Et ben voilà pour votre coup de gueule ce soir, Erwan. Merci beaucoup. Coup de cœur, absolument. Ah, des fois, la nuance est tenue, vous savez comment c'est. Bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Erwan Lenoran, consultant en stratégie au cabinet Altermind, et Christophe Rameau, enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Merci à tous les trois, très vite, avec grand plaisir, pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini pour ce soir.
Oui, c'est passé vite comme tous les soirs. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com, et puis bien sûr, en replay et en podcast. podcast. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Ah bah bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et bien sûr qu'on se retrouve demain soir, même heure, même endroit, 18h en direct. Dans un instant, Tech & Co, François Sorel et toute son équipe, bien sûr. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.